Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public et en direct au studio Charles Trenet, archi-comble de la Maison de Radio France pour une émission spéciale de 2 heures consacrée aux 50 ans du Masque et la Plume. C'est peu dire qu'avec ce jubilé, on jubile. Alors bien sûr, pour célébrer la plus ancienne des émissions de radio, on aurait pu faire le choix de l'auto-célébration et de la commémoration solennelle, mais ça n'est pas vraiment le genre de l'émission qui n'épargne personne et qui ne se préfère pas. C'est la raison pour laquelle ce soir j'ai invité aux côtés des chroniqueurs théâtre, livres, cinéma, des artistes et des écrivains qui diront sans chichi ce qu'ils pensent de leur vieil ennemi, la critique. Mais avant, un petit retour en arrière. On est en 1955, un gamin de 20 ans, Elvis Presley, entre au hit parade. À l'est d'Éden, Delia Kazan sort sur les écrans, Lévi-Strauss publie Triste Tropique, l'Express soutient le retour de Mendès France à la présidence du Conseil, la déesse frime au salon de l'automobile et le 13 novembre 1955, à 14h30, sur les ondes du club d'essai de la RTF, on peut entendre, du moins à Paris, pour la première fois, la voix d'un garçon de 25 ans, un certain Michel Pollack.
Le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente Le Masque et la Plume, un magazine public des lettres et du théâtre, animé par François-Régis Bastide et Michel Pollack, avec aujourd'hui Nicole Védresse, Alain Bosquet, Guy Dumur, Marcel Moussy, Sylvia Montfort, Serge Reggiani, Geneviève Touraine et Cora Vauquer. Collaboration artistique de Roger Bouillot, prise de son des services des reportages artistiques de la RTF. C'est une émission enregistrée dans la salle de l'Alliance française, avec le concours de son aimable public, et présentée par François-Régis Bastide et Michel Pollack.
Michel.
C'est pas ma voix.
Michel, tu te souviens du 13 novembre 1955?
Un petit peu, oui, un petit peu, mais tu sais, là.
C'est ta voix.
C'est sûr que c'est ma voix.
Ah, c'est ta voix. Elle est conservée pieusement, comme les reliques de Sainte-Thérèse.
Je suis pas sûr qu'ils se sont pas trompés, parce que nous avions un speaker. Et qu'en général, j'ai toujours refusé de me présenter moi-même.
Écoutez, vous êtes d'accord, c'est la voix de Michel Pollack. Ouais. Alors, n'essaye pas comme une fois encore de t'écarter de ta ligne droite, qui depuis 55 jusqu'à aujourd'hui a fait de toi, avec François-Régis Bastide, le fondateur de cette émission et l'un des premiers speakers, comme on disait à l'époque. C'était quoi? C'était la RTF? C'était même pas encore France Inter?
Ah non, c'était pas la RTF, c'était la radiodiffusion française. Je crois que la télé était pas en jeu encore. Ça, je suis pas tout à fait sûr.
Si, parce que RTF, c'était déjà, Radio-Télévision Française.
Ah, oui, mais pas depuis longtemps.
Ne te vieillis pas davantage.
Oui, si, parce que je peux te dire que j'ai des souvenirs qui remontent encore plus loin. Ma première émission, j'avais 17 ans, c'était en 47. C'était sur Antonin Artaud. C'était en 49, c'était un an après la mort d'Arthur, tout ça. Non, mais moi, j'aime pas jouer combattant, tu vois.
Parlons sérieusement. Est-ce que tu imagines?
Il y a les anciens combattants de 14-18 en ce moment. Je suis bientôt le dernier aussi de 14-18.
Oui. Tu fais 11 novembre et 13 novembre.
Oh, c'est terrible. Absolument effrayant.
Dis-moi, est-ce que tu imaginais sérieusement ce qu'allait, avec François-Régis, ce qu'allait être l'avenir du Masque et la Plume?
Ah non, pas du tout. J'avais même à ce moment-là, on se disait, on travaillait au jour le jour. Moi, je me disais, bon, on va faire ça. J'avais déjà tenté plein d'expériences. Et donc, non, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si j'allais m'entendre avec Bastide. On se connaissait pas. On s'est découvert mutuellement avec une certaine réticence au début. Mais ensuite, le succès est arrivé très vite parce qu'on est passé moi, j'étais au Noctambule. On est passé ensuite au Vieux Colombier, puis à l'Alliance Française. Et ensuite, on est passé dans un théâtre de 600 places, le Récamier, avant de venir à la Maison de la Radio. Mais quand on est passé au Récamier avec 600 spectateurs, moi qui au début avait organisé des distributions de billets dans les universités, parce que les gens ne savaient pas, une émission culturelle culturel public, il n'y en avait pas. Donc il fallait trouver du public. Quand tout d'un coup j'ai vu que c'est trué, j'ai dit, oh là là, mais on va s'installer dans quelque chose, je voudrais pas encore être là dans 50 ans, j'ai peut-être pas pensé 50, mais en tout cas j'ai pensé ça, donc très vite j'ai laissé tomber, j'ai dit à Bastide, maintenant ça roule, moi je m'en vais, je suis parti 2 ans, et puis je suis quand même revenu finalement.
Et François-Régis Bastide a animé l'émission jusqu'en 1982, il a disparu malheureusement en 1996, il a été un formidable animateur de cette émission, qu'est-ce qu'il avait que tu n'avais pas?
Oh, bon, ça, alors, j'en sais rien, c'est les autres qui peuvent le dire. Bon, il avait la diplomatie que je n'avais pas.
Heureusement qu'on t'a pas nommé ambassadeur, toi, parce que là,
c'était
la guerre assurée.
Ah, tout à fait, oui. Donc d'ailleurs, j'aurais tout de suite glissé un mot, puisque je suis pas diplomate, ça m'amuse beaucoup d'être là ce soir sur France Inter, parce que j'étais fichu à la porte en juin, où je faisais une chronique littéraire le jeudi soir, et je reviens par la fenêtre là, parce que ça, et je suis ravi de ce tour que je joue à une direction qui a pas été très aimable avec moi. J'ai fait glisser un petit peu.
Le masque et la plume durent depuis 50 ans. Est-ce que tu peux, puis on dira un mot quand même après de la critique, est-ce que tu as, toi, l'idée de ce que pourrait être le secret, malgré tout, et malgré ce que tu penses parfois, de sa longévité?
Je crois que c'était parce que il y en avait pas d'autres. Une émission publique de critique, je pense qu'il y en avait pas d'autres. En tout cas, quand on l'a créé, et ça a été en tout cas le cas pendant les années où je m'en suis occupé, à partir du moment où je suis parti, ça fait quand même maintenant 35 ans, j'ai pas trop bien suivi, hein, j'avais plus tellement le temps d'écouter la radio, je faisais beaucoup de télé, j'ai fait des films, alors non, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'on a créé une émission concurrente du même genre, donc c'était la seule. Et puis il y avait un renouvellement par le fait même que les critiques ont changé, de ceux de l'époque, il en reste plus beaucoup. Il y en a un que j'aurais aimé voir, c'était Pierre Marcabru, que j'aimais beaucoup, qui était un excellent critique cinéma et théâtre.
Mais le masque a vu passer des centaines de critiques. Hein,
il y en a eu beaucoup, et beaucoup sont morts. Hein. C'est quand même un peu terrifiant, ça. Et le secret, bah, c'est aussi qu'il y avait ce renouvellement par le choix des pièces, des films et des livres. C'était jamais toujours la même chose. Et le public. Moi, je crois que l'importance du public, c'était... Je crois que c'est resté la seule émission culturelle publique.
Et le public qui s'exprime par le courrier, par le micro chaque semaine, ça c'est pas négligeable. Encore un mot, justement tu es très dur cette semaine dans Télérama pour la critique d'aujourd'hui que tu trouves trop prudente, trop polie si je te lis. Et pourtant.
Oui, mais alors Télérama, eux aussi sont trop prudents parce qu'ils ont censuré le fait que j'étais viré. Alors j'avais demandé qu'ils le mettent.
Et pourtant, deux jours plus tard, je crois que c'est dans Le Monde, tu dis que les critiques du masque ont été vachement dégueulasses, en gros, avec toi, comme écrivain.
Ah oui, c'est vrai, j'ai écouté le jour où ils ont parlé, messieurs Aisin et Crépu, que j'ai vraiment dans mon collimateur.
Ils sont là, hein.
Oui, ben tant pis pour eux. Et je dois dire qu'ils ont un art, surtout monsieur Aisin, il a l'art de ne pas lire les livres et ensuite... de se faire mousser sur le dos des auteurs. Je l'ai dit un jour, je suis venu chez toi un jour pour le dire, et il a parlé d'un autre livre de moi, et il a dit quelque chose, ce qui était que j'avais mis dans la préface exactement le contraire.
Donc, il avait lu la préface déjà.
Mais non, justement, puisqu'il me contredisait sans avoir lu la préface. Donc il lit pas les livres, et ça, je trouve ça terrifiant.
Jean-Louis pourra te répondre tout à l'heure, mais c'était pour te dire que finalement, la critique au masque et la plume, contrairement à ce que tu dis, continue à être... sévère quand il le faut.
Non, parce que là, il a vraiment attaqué un livre. Moi, je l'ai écrit avec Clément Rosset, qui est un grand philosophe reconnu quand même, je pense, aujourd'hui par tous. Et là, il l'a traité avec un mépris inimaginable, enfin vraiment.
Bon, allez, ton meilleur souvenir du masque, Michel?
Mon meilleur souvenir du masque, je ne sais pas lequel c'est. Non, je pense qu'il y a eu des entretiens avec des metteurs en scène qui ont été formidables. Quand même, on a reçu les plus grands. Et puis, quand on avait la chance de pouvoir parler d'un film de Bergman ou de Fellini, ou les Godard, enfin, chaque fois ça provoquait une explosion, ça a été quand même des très 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 beaux souvenirs. Godard me disant, je lui ai demandé, j'ai l'impression que j'aime de plus en plus vos films. Est-ce que c'est vous qui faites des progrès ou c'est moi? Il m'a répondu, c'est vous. Donc, c'était très joli.
Michel, tu restes.
Je voudrais juste dire que je regrette beaucoup aussi que le livre qui est sorti, qui est pas mal fait, qui est un peu partial,
qui est très bien fait,
ils ont complètement escamoté le règne de Bouteiller, notre ami Bouteiller, et je trouvais ça un peu bizarre, parce qu'ils l'ont même pas interviewé. Ça extrêmement déplaisant.
Le livre est très riche, il fait quand même 500 ou 600 pages.
Oui, mais enfin, quand on fait un livre comme ça, on interviewe tous ceux qui l'ont animé. Bon, pourquoi en avoir oublié?
Tu es venu pour râler ce soir uniquement ou...
Mais je suis comme ça tout le temps.
Bon. Merci Michel, tu restes avec nous, en tout cas à nos côtés. 13 novembre 2005, la parole est cette fois aux auditeurs du Masque et la Plume.
Bernard, alors moi je suis cadre à La Poste et je viens au Masque et la Plume depuis déjà quand même un certain temps, depuis dans les années 70. C'est une émission qui n'a pas pris une seule ride et je dirais même que heureusement ou malheureusement, elle est de plus en plus indispensable. Parce que c'est vrai que quand on voit la grosse artillerie pour ce qui est des films et les campagnes promotionnelles, il faut absolument un contrepoids. Et je pense que le Masque et la Plume, il est même peut-être un petit peu seul, mais il est absolument indispensable. Et voilà quoi.
Bonsoir, Daniel. Je suis sans profession. Moi, je viens de Masque à peu près depuis aussi longtemps que mon camarade précédent, c'est-à-dire depuis presque 30 ans. Et je viens pour un peu pour les mêmes raisons et aussi parce que je vois les films en général avant. Je ne veux pas entendre de critiques. Je me ferme les oreilles quand je ne lis aucune critique avant de voir les films. Je veux être totalement vierge et avoir mon opinion. Et parce que c'est aussi la seule émission qui dit ce qu'elle pense vraiment. Si c'est on aime, on n'aime pas. Il n'y a pas de consensus. Voilà.
Bonsoir, moi c'est Martine. Je suis factrice à La Poste. Et la première fois que je suis allée à l'émission du Masque à la Plume, c'était quand ils ont fait l'exposition Cinécité à la Villette. Ils avaient fait une émission en direct, donc j'étais allée pour connaître un peu, parce que j'écoutais l'émission à la radio. Même petite fille, j'avais écouté. Enfin, ce que j'aime l'émission, c'est que le public peut intervenir. C'est ça qui est différent des autres émissions cinéma où les gens assistent et sans intervenir. Et bon, au début, j'étais un peu intimidée, puis je me suis lancée. Et puis, je suis venue donc avec mon mari. Et donc, c'est pour ça qu'on est devenus des fidèles. Et on aime bien voir la tête des critiques, quoi. Voilà. On regrette un peu certains, comme Philippe Collin, bon, qui est cinéaste maintenant. Mais voilà, on a nos favoris parmi les critiques aussi.
Le Masque, comme son nom l'indique, c'est d'abord le théâtre. Bien avant que Jacques Nerson et Gilles Costaz se crêpent le chignon, Gilles Sandier et Dominique Jamais en viennent presque aux mains, c'est le cas. En février 1975, à propos de Pique-nique de Claretta, mise en scène par un certain Antoine Vitesse.
Je ne lis pas souvent l'Aurore, ce n'est pas ma lecture habituelle, mais quand on m'indique un article intéressant, je le lis. Je lis votre article. Ce n'est pas un article de critique théâtrale, c'est une ode funèbre à un bien-aimé, en l'occurrence Mussolini. C'est votre droit.
Mon cher Sandier, enfin, vous avez le droit de me lire de temps en temps, et cela me fait plaisir. Vous n'avez pas le droit de dire, sur un sujet comme celui-là, très exactement le contraire de ce que j'ai dit. Ou alors je vous croirais moins intelligent que vous n'êtes, ou alors
quand
je vous croirais de mauvaise foi.
Quand vous
êtes volontiers aux autres, écoutez, et je n'accepte pas.
Quand vous écrivez, lorsque 30 ans après la mort ignominieuse et tragique du Duce, un auteur traîne pour la millième fois son cadavre dans la boue et insulte sa chemise noire,
mon cher Sandier, vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on fait une citation, il faut toujours finir la phrase. Je dis qu'à défaut de courage, il faudrait que cet auteur ait du talent.
Mais c'est que le talent, il en a. C'est que vous n'avez pas voulu le voir. Vous fassiez un article sans analyser nullement le travail de Vitesse, mais en ne faisant que cracher sur la résistance et sur ces personnages dégoûtants du sang des autres qui ont fusillé des gens à la libération. Bon, que votre hargne personnelle s'exprime, c'est parfaitement normal.
J'avais des culottes courtes à la libération, soyons sérieux.
Que vous ayez en haine la libération, c'est votre droit le plus strict. Mais là, faites au moins l'effort de comprendre le travail théâtral de Vitesse. Car ce travail est un travail éblouissant. Il faut être vraiment...
Borné.
Non pas borné, mais empêché. risquez de voir, par sa passion politique et par sa passion rétro du fascisme et sa haine de la libération, pour ne pas voir le travail d'un homme et d'un très grand homme de théâtre. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout.
Bien, merci Gilles Sandier. Dominique Jamais répond.
Gilles Sandier illustre parfaitement ce que je disais dans cet article du terrorisme, d'un certain terrorisme idéologique. Il est quand même incroyable.
Allez, voilà les vicissois.
Il est quand même incroyable que dès l'instant qu'une pièce est convenablement orientée et mise en scène par un metteur convenablement orienté, on affecte de tenir pour chef-d'œuvre ce qui ne vaut rien, rigoureusement rien, et que l'on porte au nu ce qui, venant d'une autre tendance, serait foulé aux pieds par Sandier.
Au Masque Théâtre, le public a aussi la parole, extrait toujours en 75 d'une passe d'armes orchestrée par François-Régis Bastide avec le public du studio 104. C'est court, mais écoutez bien.
Ce que je reproche, c'est la nullité du travail théâtral, c'est que ce Turcaré présenté au théâtre de la ville, c'est un spectacle d'une classe de troisième de lycée sous la direction d'un prof qui se prendrait pour Planchon. Voilà, c'est tout. Et il arrive à la performance de faire jouer les acteurs professionnels dont certains sont excellents, comme des élèves de troisième, en effet, en
bon,
plus.
Monsieur, on vous donne un dernier mot pour défendre à la fois le sage et le metteur en scène.
J'ai entendu un certain nombre de vos critiques. Vous avez dit le plus grand bien du précepteur de Lens, par exemple. Oui. Moi, ça fait un certain temps que je ne vais plus voir Sobel, parce qu'à Sobel, on s'emmerde.
Bon. Vous nous en voulez plus embêter à...
Ce que vous défendez, c'est un théâtre sérieux, terriblement élitaire. Et vous ne défendez absolument pas un théâtre qui est beaucoup plus populaire. Vous avez reproché qu'il y ait une idée. Ça me semble relativement suffisant. Dès l'instant où elle
non,
est soutenue.
Non, ils ont dit une
mais
seule.
Vous voulez faire,
ils ont
vous
dit
voulez
une
vous
seule.
Faire
bon,
briller.
Monsieur,
moi,
vous
c'est
avez,
pas du théâtre que, populaire
oui,
que
je crois
défendez.
Vous avoir donné suffisamment l'occasion d'exprimer votre point de vue. Je constate qu'il est opposé aux critiques. Tant mieux, c'est votre droit. Enfin, tant mieux ou tant pis, c'est votre droit. Vous aimez le spectacle, il ne l'aime pas. Moi, je n'y peux vraiment rien. Hein. Vous avez dit ce que vous vouliez. Maintenant, on nous interrompt au troisième rang.
Du public ou pas. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir si...
Mais vous n'êtes pas le public, n'est-ce pas? Moi, c'est ce que je trouve désagréable maintenant au Masque et la Plume, c'est que nous sommes en train non plus de dialoguer avec le public ou de parler de notre expérience théâtrale à nous, nous sommes en train de donner à la réplique de, comment les appeler, enfin de gens que les directeurs de théâtre envoient ici faire leur publicité, alors qu'à la radio, vous avez des tas d'autres émissions où justement les auditeurs de la radio prennent pour de la critique ce qui n'est que la publicité faite par les gens de théâtre eux-mêmes.
Et voilà, c'était il y a en 75, et maintenant en 2005, au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France. Et en direct, je suis heureux d'accueillir sur la scène du Charles Trenet, aux côtés d'Armel Héliot, de Jacques Nerson et de Vincent Josse, Pierre Arditi et Daniel Mesguich. Pierre Arditi, qui a tourné pour Duras, de Broca, Blier, Lelouch et surtout Alain Resnais, brûle les planches de théâtre depuis qu'il a 20 ans. Il a joué aussi bien dans le privé que dans le subventionné, Molière, Brecht, Beckett, Yasmina Reza et Jean Poiret. Alors selon les spectacles, il a connu au Masque, Pierre, des éloges, des blâmes. Vous allez, dans quelques instants réagir, il faut que vous voyez. Daniel Mesguich, acteur de cinéma et surtout de théâtre, metteur en scène, professeur au conservatoire, où il a fait monter en 2000 par ses élèves un impitoyable et malheureusement très drôle pastiche du Masque et la Plume que j'ai vu, puisque vous m'avez prêté un DVD dans le gros livre qui paraît aux arènes. Daniel Garcia écrit que vous êtes depuis François-Régis Bastide, je le cite, l'une des têtes de turc de l'émission, mais il ajoute aussi que vous avez du répondant. Ben, il a raison, parce qu'il y a dans le Figaro, vous traitez les critiques du Masque d'incompétent. Allez, on va commencer avec Pierre, et puis après Daniel.
Ce sera plus doux. Et
Pierre, Pierre Arditi, qu'avez-vous à dire aux critiques du Masque et la Plume pour leur fêter la bonne anniversaire?
Aux critiques du... C'est gentil. Aux critiques du Masque et la Plume, pas grand-chose. D'abord, parce que je n'en ai que des souvenirs présent à une époque où je n'appartenais pas encore à cette profession. C'est une émission que j'écoutais, j'étais pas encore dans le métier. Je dois dire d'ailleurs que ça m'intéressait, quelquefois ça m'amusait, je ne percevais pas encore que j'aurais en pâtir quelques années plus tard, en pâtir ou pas d'ailleurs. Je crois qu'il m'est pratiquement jamais arrivé d'écouter un Masque et la Plume pour lequel j'étais concerné parce que je n'avais pas envie d'entendre. Je pouvais lire si j'en avais envie, je ne m'en suis pas privé d'ailleurs. Donc aux critiques du Masque et de la Plume, quand je réentends ça, d'ailleurs quand je réentends Sandier, que j'aimais beaucoup, moi, que j'ai eu la chance de connaître, qui était d'ailleurs pas quelqu'un de commode, mais qui me semble-t-il, avait en tout cas cette vertu, peut-être un peu perdue par les critiques d'aujourd'hui, d'aider à la découverte d'auteurs contemporains, d'auteurs de son époque, et en tout cas d'avoir défendu une idée du théâtre qui me semblait être juste, même s'il était très intransigeant, mais après tout qui ne l'est pas. Ça me plaisait bien. Bon, j'ai rencontré des gens comme Jacques Lemarchand ou Georges Derminier, qui sont des gens qui ne sont plus là aujourd'hui, mais dont on se disait, quand on lisait une critique, même quand elle n'était pas très bonne pour vous, il y avait une telle... C'était un tel acte littéraire, par exemple une critique de Jacques Lemarchand, qu'après tout, si elle n'était pas bonne, on s'en foutait.
Elle
parce
était utile.
Ben, c'est pas je qu'elle parle, était utile, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment œuvre littéraire. Quoi. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais... Alors, les critiques du Masque et de la Plume ne sont pas concernées, puisque on ne parle pas de la presse écrite. Mais enfin, la place qui est faite aujourd'hui dans la presse écrite à ce qu'on appelle la critique, elle est absolument dérisoire. On ne peut jamais développer profondément une pensée par rapport à un spectacle. On va au plus court, au plus vite. Et puis, qu'on le veuille ou non, je suis absolument désolé, mais comme nous le disions tout à l'heure avec mon camarade Mesguich, il y a une espèce maintenant de culture people qui est très éloignée de ces gens qu'on a entendu parler tout à l'heure. Même si on n'était pas d'accord avec eux, il y avait quelque chose de très différent dans la tessiture du travail. Je pense que le travail a considérablement changé maintenant. Je n'ai rien de particulier à dire aux critiques du Masque et la Plume. J'en connais un certain nombre. Ils ont été tantôt aimables avec moi, tantôt pas aimables, tantôt très désagréables. Vincent Josse, par exemple, a été particulièrement désagréable il n'y a pas si longtemps.
Avec qui
Avec Ascaride et avec moi par la même occasion, mais c'est son droit le plus strict. La seule chose que je peux éventuellement lui reprocher, c'est que... il aurait pu parler de nous sur un autre ton. Qu'il n'ait pas aimé le spectacle, c'est son droit le plus strict, ça ne me gêne pas du tout. Qu'il n'ait pas aimé ce qu'on y faisait, c'est toujours son droit le plus strict. Il y a une manière de parler des choses et des gens qui est acceptable, et une autre manière qui ne l'est pas, et que je sache, on n'a pas couché avec les Allemands. Ça n'est jamais que du théâtre, après tout, c'est tout de même pas... C'est moins grave
Vincent,
que le banlieue qui brûle.
Est-ce que c'est ce que tu as un peu sous-entendu?
Donc j'ai pas... ça ne nous a pas... Enfin, c'est pas que ça ne nous a pas plu. C'est qu'à un moment donné, je me suis vraiment demandé si j'allais pas venir vous voir pour savoir ce qui motivait un tel ton par rapport à un travail que vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer, mais encore une fois, développer la pensée, mais l'invective, le crachat, rouler dans la farine cette actrice qui tout de même n'est pas la plus mauvaise de sa génération, et me rouler moi-même dans une merde que je ne mérite pas, même si vous n'aimez pas ce que je fais, ce qui est votre droit, je m'en fous complètement. Je veux dire, à un moment donné, quand même, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait au monde pour qu'on parle de nous sur ce ton-là,
Vincent?
Vous voyez, moi, j'ai entendu. Laissez-moi finir. Hein, pour une fois, c'est nous qui parlons. Pour une fois, c'est nous qui allons un peu parler.
Quelle idée voilà. J'ai eue, mais quelle idée j'ai eue.
Voilà. Bon, Nerson m'a aligné 2-3 fois, d'autres pas du tout. Au contraire, il m'a fait des articles très élogieux. Nous avons un rapport un peu particulier ensemble. Quelquefois, il me déteste. Quelquefois, il m'aime passionnément. C'est son droit le plus strict. Après tout, moi aussi. Vous savez, il y a une chose qui est étrange dans ce métier-là, quand on est acteur, c'est que le temps, c'est peut-être le seul métier dans lequel le temps fait un travail qui n'est pas totalement inutile, alors que pour le reste, très honnêtement, il fait un sale boulot, le temps. Quand j'étais très petit, c'est-à-dire vers 7-8 ans, j'ai vu jouer un acteur qui s'appelle Robert Hirsch, et qui m'a émerveillé dans Sosie d'Amphitryon. Je l'ai vu, je sais pas, une bonne vingtaine de fois. Le temps s'est arrêté pour lui, il a continué d'avancer pour moi, et je suis devenu son partenaire. Donc c'était un travail utile. Quand j'ai commencé à lire les premières critiques, que j'attendais, comme beaucoup de jeunes acteurs, parce que les gens qui vous disent qu'ils font pas attention à la critique, à mon avis, ne sont pas tout à fait sincères. Après, on peut relativiser. Hein. Bah, évidemment, quand on disait du bien de moi, j'étais content, 3 minutes, et quand on disait du mal, ça me faisait de la peine pendant des années. Bon, avec le temps, là aussi, le temps s'est arrêté, vous avez continué de dire du bien ou du mal, peu importe, et moi, j'ai avancé en âge. Et maintenant, à 60 ans, évidemment, quand je lis un bon article sur moi, ça me prend quelques secondes, et puis je le pose sur une table et je l'oublie, et quand j'en lis un mauvais, à partir du moment où il n'est pas sur ce ton-là, d'une certaine manière, je l'oublie aussi assez vite, sauf quand il est empreint de quelque chose qui peut toucher un écho juste chez moi, et à ce moment-là, je peux me reposer des questions. Ça m'est arrivé une fois avec Fabienne Pascaud, qui m'avait aligné dans Puntilla et son valet Mati, mais elle m'avait aligné tellement intelligemment que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de juste là-dedans, et j'ai rectifié le tir, et je pense que j'ai mieux joué le rôle après. Non pas parce qu'elle était subitement devenue metteur en scène, mais simplement parce que, sans doute, par complaisance ou par manque de lucidité sur le personnage, je m'étais laissé aller à des choses qui, au fond, ne servaient pas. Dans ces cas-là, miraculeusement et d'une manière très rare, la critique fait un travail positif pour les acteurs. Pour le reste...
Bon, alors, une petite réplique de Vincent Josse et après Daniel Mesguich.
Mais une petite réplique, hein, parce que lui, il a 50 semaines pour répondre.
Non, le théâtre, tu non, toutes les semaines.
Je ne parlerai plus.
Vincent Ditti,
je vous aime. Et aimer un acteur, c'est quelquefois être déçu par une pièce qu'il a choisie. J'aime aussi Ariane Ascaride. Ariane Ascaride, quand je la vois sur scène... Ces dernières années, je ne suis pas tout à fait convaincu par ses performances d'actrice de théâtre. Je l'aime beaucoup, par exemple dans Brodeuse au cinéma, elle me touche infiniment. Sur scène, pour l'instant, je trouve, même si ça fait effectivement longtemps qu'elle a fait du théâtre, elle ne m'a pas convaincu en tant que spectateur. Vous avez choisi une mauvaise pièce, je pense, de Véronique Olmy, et je l'ai dit. Alors, j'ai effectivement, je vais peut-être faire un mea culpa, si je vous ai blessé, ça me touche beaucoup.
Non,
et
non, pas
je
vraiment.
Je ne fais pas ce métier avec... plaisir. Je fais ce métier avec plaisir, mais je ne critique pas les acteurs avec plaisir. Je prends des gants, comme nous tous ici, pour parler du travail des acteurs, notamment des acteurs. C'est vrai que j'ai été très entier dans cette critique. Je ne retire pas le contenu, c'est-à-dire la déception de vous avoir vu choisir ce texte, qui était quoi, rappelons-le, c'était Mathilde au Théâtre du Rond-Point, une pièce de Véronique Olmy, qui raconte le destin d'un couple. Une femme rentre chez elle, c'est une bourgeoise qui est allée en prison.
Vincent, tu fais pas toute la pièce.
Non, mais je resitue un petit peu. Et puis cette bourgeoise, qu'est-ce qu'elle vient dire et qu'est-ce qu'ils vont se dire tous les deux? Ben, ils ne se disent rien. Alors ça se passait, ce petit drame bourgeois, dans un théâtre cossu sur les Champs-Élysées. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un discours, un discours un petit peu plus psychologique et intéressant, que ce huis clos soit vraiment un huis clos. Vous évoluiez dans un discours gigantesque et, à mon avis... Vous vous ennuyez dans cette pièce, Pierarditi. Et c'est ce que j'ai dit dans cette critique. J'ai déploré la mauvaise prestation d'Ariane Ascaride et je me suis dit, Arditi s'ennuie, s'emmerde dans cette pièce. Pourquoi a-t-il choisi ça? Je remarque que quand je dis du bien de vous, dans l'école des femmes, vous ne vous souvenez pas de la critique positive.
Laisse-moi une seconde et je laisse la parole à Mesguich pour tout le reste du temps. Vous avez dit une chose qui est très importante. C'est une des choses que je voulais dire. C'est que trop souvent, la critique voudrait faire savoir aux acteurs quelles pièces ils doivent jouer et quelles pièces ils ne doivent pas jouer. Pardonnez-moi de vous dire qu'il n'y a pas un critique présent ici qui pourra me dire ce que je dois faire. La seule personne qui peut décider ça, c'est moi. C'est ni vous, ni mon agent, ni personne. Mon seul plan de carrière, c'est mon désir.
Mais
quand je choisis de jouer quelque chose, c'est parce que j'en ai envie. Je ne me suis jamais emmerdé en scène, sinon je n'y monte pas. Donc, je sais que je me suis fait souvent... aligné quelquefois, parce que, semble-t-il, je n'avais pas choisi le bon auteur ou la bonne pièce ou le bon metteur en scène. Permettez-moi de penser que si je l'ai choisi, c'est que j'ai bien fait de le choisir. Libre à vous de penser le contraire, mais je ne suivrai jamais vos conseils là-dessus, je ne suivrai que les miens.
Daniel Mesguich.
Mais ça c'est rien, parce que il y a même des critiques au Masque et la Plume qui disent comment il faut faire la mise en scène.
C'est pourquoi pas.
Oui, bien sûr. Alors...
Daniel Mesguich.
Oui. Non, écoutez, c'est très simple.
Oui.
Je suis partagé. Non, je suis partagé parce que à la fois c'est le cinquantenaire de cette émission. J'ai envie d'être moi plutôt gentil, bienveillant, ouvert, voilà. Et je pense d'autre part, sincèrement, je pense d'autre part qu'il est formidable qu'il existe encore dans un monde absolument cynique où le libéralisme économique le plus dur, ne vise qu'à son essentiel, hein, c'est-à-dire les annonceurs, etc., l'argent. Je trouve formidable qu'il existe à 20h une émission où des gens parlent. Je veux croire qu'ils sont absolument désintéressés financièrement. Ils parlent, ils discutent.
Ça,
je veux le croire.
Vincent, Armel, Jacques peuvent vous dire que
j'en suis sûr.
Le cachet est à la frontière du désintérêt total.
Voilà. Et donc, je trouve que c'est extraordinaire. Alors, premièrement, je trouve que c'est extraordinaire. Deuxièmement, je trouverais un peu ridicule que des gens de théâtre attaquent d'autres gens qui, au fond, font du théâtre aussi. D'ailleurs, quand Michel Pollack tout à l'heure disait que l'émission avait toujours commencé en public, c'est à la fois formidable parce que ça évite sans doute les monologues un peu intempestifs ou un peu fatigants, mais en même temps, ça oblige les critiques à faire du théâtre, à faire du théâtre piètre. Vous voyez, par exemple. J'entends Pierre Arditi parler, il a expliqué quelque chose, et puis immédiatement, Vincent Josse, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, Pierre Arditi, je vous aime. Voilà. Et il est très content. Il
a fait, les critiques aiment les acteurs.
Il a fait un petit, non, mais il a fait une petite réplique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du café-théâtre, ça, pour moi. Hein? Voilà. On serait en droit d'attendre quelque chose de plus intelligent, de plus intéressant.
Alors, c'est quoi un critique intelligent? Parce que vous vous répandez dans la presse en disant, moi, j'aime bien le Masque et la Plume, mais il faudrait virer tous les critiques parce qu'ils sont pas intelligents et ils sont inculs. Alors, qu'est-ce qu'un critique intelligent? C'est quelqu'un qui vous renvoie votre intelligence, c'est ça?
Non, je pense pas. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait apte à comprendre ce que j'aurais
pu vous répondre.
À café-théâtre et demi, hein, vous le permettez. Alors, voilà, moi je pense simplement ça, si vous voulez. C'est-à-dire que très souvent, nous sommes jugés. Alors, voilà, donc c'est une émission de grande écoute et je trouve ça magnifique. Si le Masque et la Plume disparaissaient, j'en serais absolument morfondu. Donc, voilà, premièrement, hein, il faut garder ça en tête tout le long de ce que je vais dire maintenant. Mais ça n'empêche pas que je trouve que c'est la décadence intellectuelle totale. C'est-à-dire que je vois des gens dont je ne voudrais pas comme troisième assistant stagiaire qui tout d'un coup s'autoproclament juge et dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quelle est la mise en scène qu'il faut faire, etc. etc. Ils n'y comprennent rien. Lorsque mon dernier spectacle, par exemple, je vois que Nerson est là, mon dernier spectacle était un spectacle plutôt compliqué, pour Nerson sûrement en tout cas. Et il y a par exemple, je vous donne un seul exemple, il y a une scène de prison, c'était Le Prince de Hombourg, il y a une scène de prison. La prison est à la fois une grille, c'est une métonymie de grille, si vous voulez, c'est-à-dire c'est un morceau de grille, mais on passe indifféremment d'un côté et de l'autre de la grille, et il y a de la prison, mais ce n'est pas une véritable prison réaliste, etc. Bien qu'il y ait un jeu du réalisme. Il y a des anachronismes permanents qui disent quel est le temps dans lequel se passe Le Prince de Hombourg. Il y a des meubles du 17e, des meubles du 18e, des meubles du 19e, des accessoires du 20e siècle, etc. etc. Tout ça, au-dessus de la tête. Et il y a
c'est pas vrai.
Deux secondes. Il y a un gardien, par exemple, qui est sur la scène, et puis on l'appelle, il marche sur la scène, il sort, il rentre de nouveau, donc il y a un jeu comme ça sur le dehors, dedans, etc. J'ai pas le temps de bien vous l'expliquer. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses, par exemple, simplement dans le fait qu'il y a une prison. Tout ça, pas un mot. En revanche, qu'est-ce qui leur reste? C'est le people dont parlait Aditi tout à l'heure. Il leur reste, c'est son fils, il est très mauvais, son fils. Voilà, c'est tout.
C'est pas vrai, parce que.
En gros, c'est ça.
Ce que vous dites est inexact.
Mon fils très mauvais. Ça n'empêche pas que William Mesguich, bon, d'abord, il a travaillé avec d'autres gens que moi et il a prouvé partout qu'il était formidable.
Et il m'est arrivé de faire des bonnes critiques de William Mesguich. Simplement, je ne trouve pas le distribuer. Bah,
c'est parce que vous êtes.
Mais oui, mais apparemment, vous critiquez les critiques, c'est bien, mais il faut les lire.
Deux secondes. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on fait une tournée. Par exemple, où tous les gens disent qu'il est formidable, sauf certains qui disent, mais finalement il est formidable, et ceux-là, c'est ceux qui vous ont écouté. Mais les autres, ils disent juste qu'il est formidable.
Vous nous accusez de
non, ce que je veux simplement dire.
People, c'est ce que vous êtes en train de faire.
Je suis en train de dénoncer ça, c'est-à-dire que la seule chose que vous pouviez attraper, le petit bout de la lorgnette, c'était ils ont un lien de parenté, donc je vais parler de ça.
C'est pas vrai, parce que nous avons dit du bien de votre fils dans un autre spectacle de vous.
Si vous voulez, je peux dire une chose.
Là, on a affaire à de la mauvaise foi, il y a quelqu'un de blessé.
Non.
Mais vous savez,
non, alors attendez, alors ça aussi, c'est un leitmotiv incroyable. Est-ce que ça vous a blessé? Est-ce que ça vous a pas blessé?
Vous savez, vous connaissez Molière aussi bien.
Un élève de terminale qui fait une dissertation n'est pas blessé par le jugement d'un élève de sixième. Comment voulez-vous que ça me blesse, enfin?
Vous connaissez la réplique.
Je m'en fiche de ce que vous pensez.
Quand Oronte, dans le Misanthrope, reproche sa critique à Alceste, il lui dit, croyez-vous donc avoir tant d'esprit en partage?
Et non, Alceste, on est toujours idiot au milliard de quelqu'un.
J'en aurais davantage. Si je louais vos vers, j'en aurais davantage. Si nous aimions les spectacles de Mesguich, nous serions certainement jugés par lui intelligent.
Je ne dis pas que je voulais un éloge.
C'est tout
pas
petit.
Du tout. Je parle d'autre chose. Je vous parle d'autre chose en ce moment.
Décerner des brevets d'intelligence à ceux qui vous aiment. Si on aime vos spectacles, on est intelligent. Je sais que vous dites du bien de certains critiques, à condition qu'effectivement, qu'ils aient dit du bien de vos spectacles. Mais parce que la plupart du temps, on a des idées qui rejoignent ces intérêts.
Au niveau de votre intervention.
Mais non, je vous ai simplement observé et attendu.
Vous pensez vraiment que je suis en train de vous dire que quand on dit du bien, je trouve
que
c'est intelligent, et quand on dit du mal, le critique est
bête.
Mais non, il y a des critiques très très positives que je trouve débiles, enfin, allons. Même quand vous me faites une bonne critique, je vous trouve toujours un peu débile.
Armel, peut-être vous voulez intervenir dans ce débat sur la critique théâtrale avant qu'on passe à un autre sujet.
On le sait tous, et nous qui avons la chance d'être à cette tribune régulièrement, on le sait, la critique n'est pas une science, ça ne s'apprend pas, et il n'y a pas de recette, on est sur notre sensibilité, et quoi qu'en pense Daniel Mesguich, quand même un certain savoir, une certaine passion d'abord pour la chose écrite et ensuite pour les acteurs, le jeu, la mise en scène. Alors c'est vrai que peut-être que de temps en temps on se mêle de dire, ah bah tiens, il aurait dû faire comme ci, comme ça. Mais ce qui nous guide tous et depuis le 13 novembre 1955 à cette tribune, c'est ça, c'est tout de même la passion.
Enfin, on y est pas plus depuis 1955.
Non, mais on est dans le droit fil quand même de quelque chose. Parce que c'est vrai que peut-être on est moins brillant que Boris Charançol certains soirs, mais on parle de... En 2005, et ben voilà, on a à dire des choses aussi passionnées. Le théâtre, en plus, c'est quand même l'art qui exige le plus. Il faut être tous les soirs dehors. Et à cette tribune, mes camarades, on est tous les soirs au théâtre. Ça veut quand même dire que c'est autre chose que de la coquetterie, que du narcissisme. On va au théâtre parce qu'on aime le théâtre, parce qu'on se sent, parce qu'on est investi aussi dans des journaux, parce que le masque et la plume, c'est aussi écrire ici ou là et puis venir en parler. Ça veut dire qu'on a un devoir par rapport à nos spectateurs et par rapport aux acteurs, par rapport au théâtre qui est en train de se faire. Et c'est pour ça qu'évidemment, peut-être qu'on est insuffisant par rapport au travail que fait un metteur en scène, que fait un acteur, que fait une troupe. Peut-être qu'on est insuffisant, peut-être qu'on se trompe. Et moi, je suis la première à le reconnaître. Quelquefois, je me trompe, je le sais. Mais on parle quand même... On n'est pas des idiots, quoi. On a quand même lu des livres. On va au théâtre tous les soirs et justement, ça nous nourrit. Un soir, on entend Marivaux. Un soir, on entend Shakespeare. Je sors d'un spectacle de Dario Fo. Je veux dire, on est nourri quand même de quelque chose. On n'est pas simplement des gens qui disent j'aime pas.
Alors même, je mets pas tout le monde dans le même sac.
Je sais, mais de toute façon, mais moi, je me mets dans le sac.
Alors,
masque et la plume, mais dans cette espèce d'impulsivité
qu'on a parfois. Un mot de Daniel
Lesguiche. Non, moi, je suis moins d'accord. Je voudrais juste dire deux choses. C'est que, premièrement, le problème d'une émission telle que Le Masque et la Plume, c'est qu'en un seul soir, il y a 400 000 auditeurs, un nombre incalculable d'auditeurs par rapport à une pièce de théâtre. Et c'est donc, il y a presque plus de spectateurs qui entendent le commentaire sur la pièce que de spectateurs qui viennent voir la pièce. Il y a donc une responsabilité du critique, de celui qui parle sur les ondes, tout simplement, quel que soit son niveau, quel que soit son talent. Et il faut faire attention. Au lieu d'entrer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, il faut se dire, il y a des seuils, il y a une aura, il y a un halo autour de l'œuvre, il faut y entrer avec précaution, avec délicatesse, avec finesse, avec fragilité, et analyser, ouvrir infiniment. Je souhaiterais, moi, que les critiques que vous êtes aillent dans l'innommable, là où on ne peut pas dire ce qu'est la chose, là où on est obligé de la travailler, avec sympathie, avec empathie, avec bienveillance, avec ouverture, au lieu de venir faire un bon mot, une formule pour faire applaudir les gens du studio, pour faire plaisir et faire l'audimat. D'autre part, ce qui est gravissime, c'est que imaginez par exemple un auteur dont le livre serait très mal imprimé par l'éditeur, par l'imprimeur. Il serait terrifié, abîmé. Eh bien, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ce qui est rendu, le compte rendu qui est fait, est faux. Même Pollack le disait tout à l'heure pour un de ses travaux. C'est faux, c'est-à-dire que c'est pas ça. Mais que faire? Quel est le droit de réponse? Il n'y a pas... Le critique a le dernier mot. Si jamais un homme de théâtre ou un auteur ou un cinéaste devait répliquer, il aurait perdu d'avance. Parce qu'il viendrait... parce qu'il aurait été sans doute blessé.
Je sais que le critique n'a pas le dernier mot au masque et la plume, ce sont les auditeurs...
Mais c'est un jeu. C'est un coup j'aime, un coup j'aime pas. Quand par exemple, Arditi disait tantôt ne sont même pas, c'est 5 minutes pour Eichmann, 5 minutes pour Primo Levi, vous voyez, comme ça on fait bon poids, comme ça.
Merci, cette comparaison marque une grande stupidité, excusez-moi.
Tout ça n'est pas très...
Pour quelqu'un qui veut dispenser des brevets d'intelligence, vous devez...
On arrive au bout du débat théâtre.
Un dernier mot. Oui. Je pense je vais vous dire en fait. Je pense que c'est désespéré. Il y a une choucroute comme ça qui est désespérée. Pourquoi? Parce que si vous étiez plus fort, si vous analysiez plus, si vous alliez plus en profondeur, vous n'auriez plus 20 heures, mais 22 heures, voire 24 heures.
Vous nous donnez des leçons de critique, est-ce que je vois?
Ben, j'espère bien. C'est bien. Mais j'espère bien que je vous donne des leçons de critique. Parce que la mise en scène, c'est la critique.
Nous vous donnerons des leçons de critique.
Vous voyez, dans le moindre des spectacles de 50% au moins de la profession, il y a les discours que vous tenez mis en scène, mais vous ne le voyez même pas.
Je voulais un débat, je l'ai eu, à propos du théâtre, pour faire un anniversaire un peu différent. Merci Daniel Mesguich et Pierre Arditi d'être venus. D'ailleurs, vous êtes bienvenus si vous voulez revenir et
dire aussi ce
que vous pensez à cette tribune qui a toujours été un lieu de débat. Donc vous y êtes bienvenus.
Merci, je prends
Le masque et la plume, selon aussi une comédienne, Emmanuelle DeVos, l'héroïne de Roi Zéren de Arnaud Desplechin, qui était cet automne sur la scène de l'atelier pour jouer créancier de Strindberg, propos recueillis délicatement par Vincent Josse.
Dans la famille, on appelle ça le musque et la palme. On écoute le musque et la palme. Et je sais que ma mère ne rate pas une émission du masque et la plume. En tout cas, la radio, c'est bien d'avoir plusieurs points de vue. C'est extraordinairement riche.
Ça veut dire que l'actrice que vous êtes apprécie la critique en général ?
Non, évidemment, je ne pense pas qu'on apprécie d'être critiquée. Je n'aime pas quand on dit que je joue pas bien, par exemple. Mais quand c'est dit sans haine ou sans snobisme, à la limite, ça peut s'entendre. Comme il y a une liberté de ton, évidemment, ça peut faire mal, mais c'est pas snob, voilà. C'est ça que j'aime bien, c'est pas snob. En théâtre, alors par exemple, moi j'aime bien parce que je suis toujours d'accord, par exemple, avec Armelle Hélio. Je suis souvent d'accord avec elle, donc j'aime bien quand elle parle. Ou alors, j'adore, comment il s'appelle, Bernard Thomas. Alors Bernard Thomas, alors lui, il est tellement, il plane à 20 000, quoi. Il vient de sa Bretagne, il va voir les pièces. Il est, voilà, c'est tellement autre chose. Il est pas parisien, donc il critique un peu parisien.
Est-ce que vous parlez du masque et la plume dans le métier, entre vous ?
Non, non. Si on n'en parle pas, c'est que finalement, c'est que ça se passe bien. Parce que les seules critiques dont on parle, c'est des méchants.
Si vous aviez un mot à dire à Jérôme Garcin, l'animateur du Masque et la Plume, ce serait quoi pour les 50 ans du Masque ?
Que j'aimerais bien le voir en vrai, parce que je ne l'ai jamais vu. J'aime bien sa voix, j'aimerais bien le voir en vrai.
Il est pas mal.
Il est pas mal ? Bon, bah, j'essaierai d'un jour d'aller dans le public en douce, alors.
Après le Masque, la Plume, de Alain Robbe-Grillet à Michel Houellebecq, les critiques littéraires se sont toujours empoignées à cette tribune, témoin, en 1987, dans un masque et la plume orchestré alors par Pierre Bouteiller, ce duel entre Jean-Didier Wolfram et Raphaël Sorin à propos de la rentrée littéraire et de Marie Cardinal. Ça commence doucement, ça se termine, tous aux abris, écoutez.
Sorin ?
J'ai quand même lire les quelques lignes de l'écrivain.
Ah, c'est
bon. Je vous révélerai le nom tout à l'heure. Et ce que je viens d'entendre sur Marie Cardinal me conforte dans la nécessité de divulguer ce texte.
C'est de l'obsession, tu sais, quand on
qui date des années 50.
Oui,
donc c'est pas si vieux.
Hein, c'est toujours pas très vieux.
On était lucide déjà à l'époque. Les idées, rien n'est plus vulgaire. Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 volumes, énormes, remplis d'idées. Très bonnes d'ailleurs, excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ça n'est pas la question. Ce n'est pas mon domaine, les idées, les messages. Je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idées, je suis un homme à style. Le style d'âme, tout le monde s'arrête devant. Personne n'y vient à ce truc-là. Parce que c'est un boulot très dur. Il consiste à prendre les phrases, je vous le disais, en les sortant de leur gond. Je pense que tout le monde a reconnu ce style, qui est à la fois très maniéré et très familier.
Et très mal écrit.
Il s'agit de Louis-Ferdinand Céline.
Ouais, c'est très mal écrit, d'ailleurs.
Ça fait partie d'un recueil de textes qui vient de sortir, qui s'appelle « Le style contre les idées », qui réunit quelques textes aux éditions complexes. Et ça réunit quelques textes de Céline que je trouve assez étonnant d'actualité.
Oui, bien.
Puisqu'au moment où, justement,
oui, c'est style
on parle de la littérature,
si on
comme
s'il talent.
S'agissait des problèmes des femmes, des problèmes de la drogue, des problèmes de femmes de 60 ans, des problèmes de femmes de 30 ans, ça emmerde
oui.
les
et
gens.
Et quand ça emmerde le style,
ça mais emmerde. Ça et la vieille pas, question du style revient. La vieille question, elle revient avec qui ? Elle revient avec des gens comme Proust et comme
et
Céline.
Trouve,
on n'y peut rien, c'est comme ça.
Et je trouve que c'est
et je trouve que les critiques littéraires devraient se foutre des idées de plus en plus. Parce que tout le monde en parle, des idées. Tout le monde les remue, tout le monde...
Et les critiques littéraires ne devraient pas avoir peur du talent des vivants.
Oui,
mais
et
il y en a des vivants.
Totalement injuste.
Il y en a des vivants.
Tu me cites un vivant.
On devait parler de Calafère, par exemple, le vivant.
Totalement injuste, totalement fasciste d'imposer, de dire et de ne pas tenir compte des autres qui n'ont peut-être pas la culture que tu as.
C'est pas une question de culture. C'est une question de position par rapport à ce qu'on lit. Moi, j'ai pas envie de lire une histoire d'une femme de 60 ans parce que je peux lire dans Marie Claire ou dans Elle. C'est beaucoup plus intéressant raconté dans les faits divers. Les écrivains le racontent beaucoup moins bien que les journalistes.
Raphaël
Moi, ce que j'ai vu de mieux sur le problème, c'est écrit dans les pages de Elle qui ne sont pas les pages littéraires, qui
Raphaël
sont dans
Sorin,
les pages...
Pardonnez-moi l'expression, mais qu'aimez-vous lire ?
Par exemple, Calafert, c'est un écrivain d'aujourd'hui.
Parce que vous n'aimez pas les femmes de 60 ans, vous n'aimez pas les...
Je n'ai pas dit que je n'ai pas... Je n'aimais pas les livres qui se contentaient de me parler des femmes de 60 ans. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose que la littérature peut amener et défendre.
calme-toi, parce hein? que je crois, n'est-ce pas, que
calme,
ça fait
calme.
30 ans que cette émission existe. Elle n'avait jamais. C'était
par Michel Pollack.
Elle n'avait jamais.
C'est vrai. Et c'est l'occasion de le remarquer. De
elle n'avait jamais été envahie par le terrorisme.
Mais
le
oui.
terrorisme ne rentrera jamais ici, en aucune manière, en tout cas pas en ma présence. Je n'admets pas qu'on puisse dire qu'une rentrée littéraire est ratée sous prétexte qu'on a lu quatre livres qu'on a trouvé mauvais.
Voilà, merci.
Je n'admets pas non plus qu'on traîne dans la boue au nom de Céline, qui vraiment, je veux dire, Céline est un des plus grands écrivains du siècle, tout le monde le sait, mais qu'est-ce que, où est-on? Où est-on? On est à l'association Guillaume Budet, on est là pour défendre une littérature vivante, en marche, qui marche et qui claudique parfois, qui
avec
se casse la figure, on le sait parfaitement,
avec des coquilles, on
n'est pas
bien,
là
on sait bien
pour entendre des anathèmes de quelqu'un dont le goût n'est pas forcément un critère pour le reste du monde.
Une fois de plus, je trouve scandaleux d'imposer cette espèce
et je ne continuerai pas à participer à une émission où un tel terrorisme est pratiqué.
Et je
ne l'ai jamais pratiqué, je n'ai jamais attaqué les auteurs autrement qu'à travers de leurs livres et jamais dans leur personne. Je trouve que le livre de Conchon est bon, et c'est pas parce que les histoires de dames de 60 ans ennuient M. Sorin qu'il faut que tout le monde trouve ça infâme et qu'il nous sorte un texte de Céline d'une extraordinaire banalité.
Ah oui,
y
ça,
réfléchir.
Alors là, merci. Hein bah.
Et voilà, ça chauffait, ça continue d'ailleurs toujours à chauffer au masque et la plume littéraire. Avant de présenter les invités de ce plateau, on revient aux auditeurs du Masque et la Plume qui ont encore la parole et qui disent ce qu'ils pensent de leur émission.
Bonsoir, je suis Philippe, je suis boucher. Voilà. Bon, alors moi, j'écoutais le Masque et la Plume à la radio, évidemment, et j'ai voulu, par curiosité, mettre une tête sur les critiques, puisque on entend les voix comme ça, c'est tout à fait sympathique. Mais bon, mais alors quand j'ai découvert, et puis je suis venu assister pratiquement tous les 15 jours au Masque, aussi bien à littérature, théâtre et cinéma, j'ai pas été déçu. Au contraire, c'est des personnages truculents, taquins, surtout Jérôme Garcin, qui taquin avec ses critiques comme ça, bon, c'est vrai qu'il blague, donc c'est une ambiance bon enfant, c'est vrai comme disait Bernard, c'est indispensable quand même dans le paysage audiovisuel, voilà, de la télé, des critiques des journaux, etc. C'est indispensable de se mettre au courant des critiques de tous bords, littérature, théâtre et cinéma, voilà.
Je suis française, je ne travaille plus, donc j'ai donc du temps. Mais je pense que je suis une enfant de Masque et la Plume, parce que je viens rarement aux enregistrements directs, mais je ne loupe absolument pas la soirée du dimanche soir. Et bon, il y a de l'émotion, il y a des générations donc que j'ai entendues, et la grande époque, évidemment, du Mur, de Bourri, etc. Je l'ai connu. Christian Ivaldi nous ravissait de ses intermèdes en direct. Il est devenu une star du cinéma, de la musique, pardon. Et un petit peu de nostalgie, mais bon, c'est très bien. Petite restriction. J'aime beaucoup la nouvelle génération du Masque. Et ils sont pas trop nombreux, je le déplore un petit peu, mais bon, ça va venir, je pense.
Je m'appelle Edouard, je suis étudiant. J'ai été élevé chaque dimanche soir depuis que je suis tout petit en écoutant le Masque avec les parents. Et depuis un an, je suis sur Paris et je viens assister avec bonheur au direct. Et pour que ce soit la littérature, le théâtre ou le cinéma, c'est toujours très intéressant. Ils sont toujours, il y a de l'ambiance et c'est encore mieux qu'à la radio.
Voilà quelques témoignages parmi beaucoup d'autres. À propos du Masque et la Plume, dont je rappelle qu'elle fête ce soir jour pour jour ses 50 ans, 13 novembre 55 exactement, que nous sommes en direct jusqu'à 22h, dans quelques minutes, juste après le journal, nous allons entamer le plateau littéraire avec Philippe Solers, avec également, si j'ose dire, un absent que je regrette, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi et comment il n'est pas là. Et puis avec les critiques littéraires de l'émission, Patricia Martin, Michel Crépu, Jean-Louis Hésid. Alors Jean-Louis, je voulais juste avant le journal que tu dises un tout petit mot, puisque tu as été pris à partie par notre ami Michel Pollack tout à l'heure, qui dit que tu ne lis pas les livres. C'est faux.
Alors écoutez, je vais faire une confession parce que bon, je la dois forcément au fondateur de l'émission. Hommage à lui, gloire Polak. On sait tout ce qu'on lui doit, tout ce que cette émission lui doit, et puisque la liberté de penser lui doit aussi dans les médias. Donc je vais faire un aveu. C'est un aveu de faiblesse, d'ailleurs. Je ne sais pas comment, si je continue de faire partie de ce club, je vais me débrouiller maintenant de cette situation. Mais c'est une légende. C'est une légende, et je pourrais même dire, parce que miraculeusement, je me souviens très bien comment elle est partie. Elle est partie d'un coup de flemme. Je me souviens très bien, ce jour-là, Jérôme m'a fait parler en numéro 4 d'un livre qui avait été méthodiquement laminé, il n'en restait rien par mes trois confrères, mais vraiment rien. Et je me suis entendu dire, je m'apprêtais à dire grand bien de ce livre, ce qui du reste était vrai, mais j'en étais accablé. Mais je crois qu'après avoir entendu ce que je viens d'entendre, je ne le lirai pas. Et en fait, cette légende est partie de là. Il faut avoir l'humilité, la modestie d'accepter les légendes. Parce qu'en plus, au masque, chacun a un emploi, n'est-ce pas ?
Absolument, comme au théâtre.
C'est comme au théâtre. Donc j'ai eu cet emploi-là. Ce n'est pas le plus glorieux, j'en conviens très bien. Mais cela dit, j'essaie de trouver une sorte de réconfort en me disant qu'il est moins blessant de dire du mal d'un auteur en précisant éventuellement ou en laissant entendre qu'on ne l'a pas lu. C'est purement chrétien.
Voilà. Eh bien, il est bientôt 21h. On va se retrouver dans quelques instants. Avant, vous écoutez France Inter et vous avez évidemment bien raison. Ce soir, plus que jamais, il est 21h. Le journal vous est présenté par l'excellente et charmante Odile Martin. Odile, bonsoir. Et la plume. Retour donc en direct et en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour la suite de l'émission spéciale consacrée aux 50 ans du masque et la plume, et après le théâtre et avant le cinéma, la littérature. Et je suis très heureux d'accueillir donc aux côtés de Patricia, Michel et Jean-Louis, l'écrivain Philippe Solers. Et j'aurais aimé aussi recevoir le philosophe Michel Onfray, mais il a décliné au dernier moment mon invitation et m'a adressé en guise d'explication la lettre suivante. Cher Jérôme, quand j'ai accepté le principe d'une présence sur le plateau du 50e anniversaire de votre émission, j'avais cru comprendre que les critiques seraient dans le public et non sur scène. J'avais donc donné mon accord estimant bienvenu que pour une fois, en un demi-siècle, la critique expérimente la situation de celui sur lequel on peut se lâcher en dépit de toute convenance, sans que la victime ait la possibilité de faire valoir son opinion. Apprenant que la règle du jeu n'est pas celle-ci, qu'on me propose de participer à une table ronde où la juridiction d'exception consent à rencontrer ses têtes de turc, je me vois dans l'obligation de vous dire que je ne me déplacerai pas à Paris ce dimanche pour cette fête qui n'en serait pas une. Je ne lis ni les bonnes ni les mauvaises critiques, n'écoute pas les émissions me concernant, je ne lis pas les livres qui me sont consacrés. Je vis en province, à Argentan, Basse-Normandie, loin des lieux où grenouille ce petit monde. À l'heure où vous lirez ces lignes à l'antenne, ajoute Michel Onfray, je travaillerai une activité que la critique littéraire trouve inutile. Le libertaire que je tâche d'être en politique ne tient pas plus en estime le pouvoir journalistique que les autres pouvoirs. La vie est trop courte pour se la rendre pénible par la fréquentation de cette engeance. L'engeance, c'est vous, hein. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour les désagréments que ma défection occasionne. Croyez que j'aurais aimé, pour une fois, contribuer à la critique de la critique sans qu'elle puisse en modérer l'exercice, gardant une fois encore le contrôle total de ses privilèges. Avant de parler avec Philippe Solers, qui a consenti à venir, Patricia, Michel, Jean-Louis, cette lettre-là vous inspire quelque chose, Michel Crépu ?
Oh, quel dommage, vraiment, quel dommage. J'aurais été tellement ravi de faire sa connaissance à M. Onfray. Non, c'est très dommage, c'est triste. J'avais deux, trois trucs à lui dire, deux, trois questions à lui poser sur son livre. J'en profite simplement pour dire, je ne les poserai pas ces questions, bien entendu, je n'ai pas l'habitude de parler à un fantôme, mais simplement, je voudrais simplement dire que au masque et la plume, j'ai l'habitude de m'exprimer comme tout le monde, d'ailleurs, comme tous mes camarades, sans autocensure, librement. Le masque et la plume, c'est un moment de liberté, c'est un poumon dans ce paysage médiatique où il ne reste plus grand-chose du travail critique. Je suis désolé pour Michel Onfray, mais j'ai l'impression de travailler ici.
Alors, juste un tout petit mot pour expliquer aux auditeurs que je n'avais pas, évidemment, je ne l'avais pas invité par hasard, et il avait été sévèrement étrié à cette tribune pour son traité de théologie, ce qui avait valu un énorme courrier pour le défendre, dont j'avais lu d'ailleurs beaucoup d'extraits à l'antenne, suivi d'un une seconde vague de courriers pour s'en prendre aux premiers auditeurs. Bref, il avait créé un débat, et je trouvais bien qu'il soit à cette tribune, mais voilà. Et c'est un débat qui, en tout cas avec vous, ne l'intéresse pas. Patricia, un petit mot ?
Non, juste sa colère, je la comprends. Ce que je comprends moins bien, c'est le mépris qui semble être le sien, parce que quand il dit qu'on travaille pas, moi je suis désolée, je me reconnais pas non plus là-dedans. Je dirais malheureusement, qu'est-ce qu'on bosse ? Et pour pas cher, en plus, Jérôme Garcin, tu le disais tout à l'heure. Mais il faut pas non plus se polariser sur lui, parce que je crois qu'il est loin d'avoir d'être le seul à avoir ce genre de réaction. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer, pour ma part en tout cas, des auteurs, mais j'imagine qu'on l'a bien vu tout à l'heure avec les réactions qu'on a entendues, des gens qui se sentent blessés. Alors je me dis, ça a peut-être à voir avec la culture française. Il me semble que dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, par exemple, on confond peut-être moins l'être et le faire, et que nous, ici en France, on le fait beaucoup, et qu'on se sent vraiment, mais intimement blessé dans sa personne, si on critique quelque chose que vous avez fait, parce qu'on se dit, du coup, c'est moi qu'on n'a pas compris.
Jean-Louis, un petit mot sur cette affaire Onfray, puis on passe à,
notre invité. L'admirable clé de voûte de ce texte, il y a quelque chose qui soutient tout l'ensemble. Enfin, moi, je l'entends comme ça, c'est la phrase qui me restera, celle qui vibre encore à mon oreille, et que je vais emporter tout à l'heure. Et ça va pas t'étonner, oui. C'est moi qui vis à Argentan. Il est évident que... c'est là qu'on peut se mettre à l'abri des turpitudes intellectuelles et des errements. Moi qui vis à Ponto Combo, je n'ai pas cet avantage. Encore que, de ce point de vue-là, je pourrais parler de plouc à plouc à... Sans problème, sans aucun problème.
Enfin, toi, tu es tout à fait hétéroplouc, tu l'as dit.
Oui. Ça, c'est une précision. Ah, ça, oui. C'est une précision que je vous remercie de donner, mais oui, c'est important.
Alors, Philippe Solers.
Bon, ben moi, je regrette beaucoup que Michel Onfray ne soit pas là. Est-ce que vous lui aviez dit que je serais là?
Absolument, et Michel Pollack aussi.
Et à mon avis, il ne l'a pas entendu, parce que moi qui vis plus loin qu'Argentan, depuis très longtemps en exil de ce pays où je n'entends dire que du mal de moi, j'aurais été content de rencontrer quelqu'un pour qui j'ai la plus grande sympathie. Bonjour Michel, je suis sûr que tu écoutes là.
Hein. Non, il travaille.
Alors Argentan, bonjour tous les habitants d'Argentan. Pas de voiture brûlée, j'espère. Bon, très bien. Moi, j'aurais été content de discuter un peu avec Michel Onfray, parce que je trouve que ses positions sont très intéressantes, je le lis. Et son traité de la théologie, énorme succès. Alors là, il y aurait eu Jérôme, ce soir, oublions tout le reste, ne l'ambinons pas, une conversation sur l'athéisme.
Mais même une conversion. Je songe, cher Philippe, que nous sommes le 13 novembre, c'est-à-dire c'est la date anniversaire de Saint-Augustin, 13 novembre 354. C'est le jour où
cet hétéroplouc a été frappé par la grâce.
Mais oui, il a été frappé par la grâce.
Attendez, il y a une discussion très intéressante à avoir sur l'athéisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il peut être démocratique ou pas? Et visiblement, Onfray pense que l'athéisme peut être démocratique quand il est, à mon avis, ne produit que des désastres, n'est-ce pas Saint-Augustin? Donc, il y avait une conversation passionnante à avoir. Malheureusement, elle n'aura pas lieu. Mais bonsoir Michel, bonjour Argentan.
Merci en tout cas Philippe Solers d'avoir accepté de rencontrer l'engeance critique du Masque et la Plume. Alors il est vrai que vous êtes un habitué de l'émission qui vous a constamment et alternativement attaqué ou encensé. Dans son livre, Daniel Garcia rappelle que déjà en 1961, François-Régis Bastide vous invitait au Masque et la Plume. Il y a une jolie photo de vous, vous aviez 24 ans, c'était pour le Parc. Et après, ça a été, tous vos livres ont été évoqués à cette tribune. Dans l'un de vos livres, L'année du tigre, qui était votre journal intime, vous parlez de la comédie du masque. Alors, je ne sais plus à quel masque en particulier vous faites allusion, mais voilà, vous êtes un pilier, que vous le vouliez ou non, de cette émission. Vous avez tout connu, le meilleur et le pire.
Écoutez, je suis très, très, très touché que vous ayez bien voulu m'inviter ce soir au Masque et la Plume, émission qui a une importance mondiale, tout le monde le sait. Pourquoi suis-je touché et même ému? Car dans le livre sur le Masque et la Plume, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt,
édition des Arènes,
je vois qu'en 1997, le Masque et la Plume sonne mon allali. Mais que là, vraiment, j'aurais dû disparaître.
Sorin et Edine.
Oui. Et alors, non, c'est le commentaire du livre. Là, le Masque et la Plume, l'histoire d'une déception, et là, c'est l'allali. Je suis forcé. Je suis étonné d'être encore vivant, à devenir, et que, comme c'est gentil. Alors, non, mais là, vraiment, le soir de l'allali, l'allali, j'entends, c'est reproduit dans le livre, n'est-ce pas, Raphaël Serin dire ceci. Avec Solaire, son passe par des hauts, rarement. Et par des bas, souvent. C'est un livre qui s'appelle Studio. Hein. Là, on est vraiment très, très bas. J'ai rarement lu un tel tissu d'ânerie sur Rimbaud. La manière dont il parle de Mallarmé est grotesque. Tout cela est lamentable. Et alors là, ça m'a beaucoup frappé, parce que, évidemment, j'ai eu vraiment mal. Parce que tout le monde connaît les travaux extraordinaires de Raphaël Sorin, traduits dans le monde entier, sur Rimbaud. C'est un spécialiste qui est d'une précision, d'une érudition. Et là, vraiment, c'est extraordinaire. Alors, le tissu d'ânerie, évidemment, il faudrait, là encore, émission, la télé, mais alors, le tissu d'ânerie que j'ai dit sur Rimbaud, ça ferait une émission, à mon avis, intéressante.
Alors, voilà. Ce soir-là,
alors, Jean-Louis Zine, heureusement, Jean-Louis Zine me défend.
Ah bon?
Me défend. Là, c'est formidable. Il me défend, et là, c'est un très beau panégyrique, dans la Lali, à l'intérieur de la Lali. Ah. Mais là, il y a une préoccupation presque charitable de votre part.
Mais non, mais oui, c'est...
Il y a longtemps que je ne lis plus Solers pour lui-même. Ça me rappelle un mot de Jean-Didier Wolfram, qui était un excellent critique de votre émission, qui a dit, on lui dit, vous n'avez pas lu le livre, il dit, bien entendu, et je n'en suis que plus objectif. Alors,
je venais d'en faire
et je le lis pour ça. Mais ça, c'est très bon. Écoutez, c'est du bon Isine, ça. Je le lis pour savoir ce qui se passe dans le monde. C'est extraordinaire. Ah, voilà un écrivain qui dit ce qui se passe dans le monde. Il me donne la météo.
Oh, mais
que demander de plus? La météo. Vous écoutez la météo au téléphone, il y a des voix charmantes là, 32-80, prenez. Il y a une fille en ce moment qui s'appelle Anne Martinez, avec un accent du sud-ouest de Toulouse, pas d'Argentan, de Toulouse, qui a une voix du
délice.
Mais 32-80, écoutez la météo. Il me donne la météo. Bon, voilà, quelqu'un qui n'a plus besoin de consulter la météo, c'est monsieur ici. Vous lisez Solaire si vous savez où vous êtes.
Non.
Quel éloge. Ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire d'intelligent. Voilà, c'est le patron, un patron de taille 42, je ne sais pas, c'est le mannequin des temps modernes.
Oui.
Merci l'employé.
Oui, j'ai pas très bien compris le patron de taille 42.
Je ne sais pas non plus, mais enfin, c'est pas grave.
Non, c'est une bêtise.
Non, mais bon, c'est bon.
Avant de laisser la parole à Jean-Louis...
Tout ça est drôle, et puis voilà tout.
Ça ne vous blesse pas, donc, la critique du...
Mais au contraire, je trouve ça abusant, stimulant, et quand même très... plutôt comique, cocasse, voilà. Être blessé par des gens qui s'amusent et qui visiblement font une émission qui se donne comme principe de n'être pas sérieuse, il faudrait être fou. On ferait là des raisons.
Jean-Louis.
Mais je maintiens qu'il y a, vous savez, ça rejoint un petit peu ce qu'on a entendu de la critique, notamment dans la partie théâtrale, justement, c'est terrible. Ou alors ce qu'a dit encore Onfray, c'est engeance, etc. Il est très évident qu'on ne supporte le critique qu'à la condition d'être un agent de promotion. Là, il devient sérieux.
Je considère que ça, aussi bien serein que vous, c'est de la promotion pour moi.
Ben, il me semble.
Ah, absolument.
Il me semble.
Et c'est pour ça que j'abonde dans votre sens.
Ça frôle un petit peu l'approche que j'ai de votre importance.
Mais oui.
J'allais dire même, puisqu'on était parti dans des perspectives augustiniennes, votre immanence, parce que il y a quelque chose comme ça.
Si vous pouvez l'ajouter.
D'ailleurs, à quoi sait-on qu'on est dans un événement? C'est quand Solers le commente. même le magnifique de sa présence, c'est le cas ce soir.
Mais ça va rester, vous savez, dans mes œuvres complètes, tout ça sera cité. Raphaël Serin sera cité comme spécialiste
De Rimbaud. Il m'est arrivé de dire à cette tribune, parce qu'on commande vos livres depuis 50 ans,
la fois dernière, vous étiez amoureux de Venise et c'était l'enthousiasme.
Oui, absolument. J'ai dit même que vous étiez désormais notre Malraux. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que vous êtes un homme par qui tout passe. Vous êtes à tous les endroits. C'est pour ça que je parlais d'immanence, quasiment spinozien. Vous êtes à tous les endroits du paysage.
Oui.
C'est important.
Oui.
Donc, quand je ne dis pas de bêtises, il me suffit de l'air solaire pour savoir où je suis.
Absolument.
Où je suis dans le monde tel qu'il va, bien entendu.
Tel qu'il va pas, même.
Eh bien, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que, moi, en tant que critique, je sais ce qu'il en coûte d'écrire des articles. Et quand je vois
et de lire les livres
et quand je vois qu'un homme comme Philippe Solers que d'aucuns mettons sans doute Onfray, parce qu'Onfray a le mot pouvoir à la bouche tout le temps, cette maladie française, on a toujours cette maladie française de voir les gens à travers le pouvoir, ça c'est vraiment monomaniaque. Il n'y a pas de pouvoir, il y a simplement des gens qui ont la générosité de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. La curiosité de s'intéresser au paysage, et c'est ce que vous faites, il n'y a pas de pouvoir de Philippe Solers, vous êtes d'accord avec moi. En revanche, il y a effectivement un Philippe Solers qui est dans le journal du dimanche, qui dirige sans doute des collections, par qui il passe beaucoup de choses, qui écrit dans Le Monde, qui écrit même dans Le Nouvel Observateur.
C'est pas vrai.
Donc, un homme comme Onfray dit que vous êtes un homme de pouvoir.
Oui, ça,
moi, je dis que vous êtes un homme de curiosité, parce que je sais ce qu'il en coûte d'écrire comme ça, de tartiner dans son coin. Et donc, je pense que vous êtes une sorte de super critique, en fait. Donc, vous êtes dans notre camp.
Bonne rhétorique, Jean-Louis. Bon, un mot de Patricia et de Michel sur ce que dit finalement Philippe, c'est-à-dire que la critique bonne ou mauvaise est plutôt stimulante pour l'esprit au terme c'est une sorte
de rhétorique geste là, alors,
stimulante.
Seuls ceux qui sont au Stiglois, mais il le fait souvent ce geste avec la main, d'ailleurs après tout qu'importe quoi. Mais en même temps, vous avez dit pendant que Jean-Louis parlait, je sais pas s'il l'a entendu à propos de Malraux, vous avez dit malraoïste. Il y a quand même des choses
et je Malraux, la pensée.
Oui. Non mais d'accord, malraïste.
Non, Malraux c'est tout.
De malraïste, moi je pense à maoïste et oui. Ça je me dis qu'il y a quand même des critiques forcément parce que là ce que vous avez dit c'est très drôle, c'est très brillant et ça fait rire tout le monde évidemment. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas des critiques quand même qui ne vous blessent pas, précisément quand on vous dit que vous êtes copain avec, enfin que vous défendez le pape, que vous avez été maoïste, que vous n'avez pas fait la guerre d'Algérie, on ne dit pas pourquoi, qu'on vous défend qu'on vous défend en quelque sorte le droit d'être rebelle. Vous arrivez quand même précédé d'une réputation, donc forcément on ne vous lit pas comme un auteur lambda, et on s'arrête souvent aux personnages médiatiques. Ne me dites pas que ça ne vous agace pas.
Non, pas du tout. Je trouve ça tout à fait normal. Excusez-moi.
Vous ne trouvez pas ça normal parce qu'il y a un livre. Non. Il y a un livre de, on va dire, qui est un peu fouillé, qui est paru aux éditions du Chêne, qui a été fait par vous et Gérard de Cortance.
Oui, il y en a bien d'autres.
Hein. Bon, il y en a bien d'autres, mais en fait, il se trouve que celui-là, je l'avais sous la main, je l'ai regardé, où on voit bien quand même qu'il y a des choses qui vous blessent. Vous n'êtes pas
Patricia
que cet être virevoltant.
Patricia est en train de vous supplier de la détester.
Pas du tout. Non.
Oui,
mais de dire, ne me dites pas là, vous dites exactement le contraire de ce qu'on
Patricia,
dit Arditi et Mesdi.
Patricia, au fond, vous avez raison. Je suis un homme très pudique. Parfois,
il est casse-pied, hein.
Il est fuyant. Oui, par pudeur, voyez-vous, parce que je saigne souvent, je me soigne moi-même, je ne dis rien à personne, je me couche et ça passe.
Et personne pour vous consoler?
Merci en tout cas, Philippe Solers. Je crois que notre ami Michel Pollack voudrait dire un mot. Ne bouge pas, Michel, un micro. On est en direct, mais... le micro vient vers toi, Michel Pollack, donc...
Je voulais juste dire à Philippe qu'un jour, j'ai fait un article assez méchant sur un de tes livres, dans l'événement, et Bastide m'a téléphoné et m'a dit « C'est très drôle ton article, mais je crois qu'il aura été très blessé ». Et c'était dit avec une extrême gentillesse. Je pense qu'il était déjà malade et qu'il était très sensible à la critique.
J'étais à l'hôpital à l'époque, en effet, ouais. Entre la vie et la mort, Michel.
Il ne l'était pas encore, mais il était déjà malade. Ouais. Il était très malade. Puis je voudrais juste ajouter une chose. Je trouve que Aisine vient de faire exactement la démonstration de tout son brio inutile, car il parle de tout, sauf de littérature, une fois de plus.
On se croirait à droit de réponse. L'an dernier, un sondage publié par Livre Hebdo démontrait que le masque la plume était, et oui, l'émission de radio la plus prescriptrice. Alors, que pense-t-on du masque 2005 dans l'édition ? Patricia Martin a interrogé Anthony Rollet, Teresa Crémisi et Daniel Pénac. Écoutez.
Bonjour, je m'appelle Anthony Rollet, je suis historien et le directeur littéraire des éditions Perrin. Ça fait 35 ans que je prépare alternativement soit ma salade, soit mes pâtes du dimanche soir à 8 heures précises, ce qui me laisse à la fois le temps de commencer la cuisson au moment général du générique et de déguster ça avec les enfants, qui sont grands maintenant, pendant l'émission. J'ai deux regrets. Le premier regret, c'est qu'il n'y ait jamais, ou presque jamais, d'essais commentés, critiqués dans le masque, comme s'il y avait une sorte de réticence à l'égard de sujets qui paraissent soit trop austères, soit sur lesquels on pourrait s'empailler moins, mais pour écouter toutes les émissions dans tous les registres, que ce soit le théâtre ou le cinéma, et forcément la littérature, il n'y a pas de raison que Jean-Louis Aisine ne soit pas capable de lire un essai de plus de 200 pages. Deuxième regret que j'ai, c'est que, après tout, le masque est une institution, et c'est bien la seule émission où, à ma connaissance, il n'y a pas de spécial, parce qu'une fois par semaine, il y a des moments, par exemple pour la littérature, où on se dit c'est trop peu.
Alors, je suis Teresa Crémisi, je dirige les éditions Flammarion aujourd'hui, j'ai été longtemps directeur éditorial aux éditions Gallimard. L'émission Le Masque et la Plume est pour moi une prolongation de ce qu'a été le travail de l'éditeur. On voit là les débats que nous avons peut-être eus dans des maisons d'édition, dans les couloirs, autour de la machine à café, sur des livres, sur des auteurs. Et je trouve d'ailleurs que cette émission a quelque chose d'unique, de rare. Elle a gardé au fil des ans une joyeuseté bagarreuse, une espèce de gaie et assez violente liberté d'esprit qui fait que quand on l'écoute, on la croit. Et on sait que ce que disent les personnes qui sont là, eh ben, elles le disent sans pression, en ayant conquis un petit espace de liberté, un rendez-vous de liberté. L'émission la plus réussie est celle où on se dispute le plus, où on bagarre le plus, où les idées se contredisent et où les arguments s'aiguisent. Je pense que cette émission est une émission parce qu'elle est crédible, est une émission qui donne envie d'acheter ou de pas acheter un livre. Les personnes qui ont, au fil des années, se sont succédées autour du micro, du masque et la plume, ont conquis une crédibilité. Donc, elles ont une grave responsabilité, parce que je pense que le lendemain matin, on voit les effets de leurs arguments dans les librairies, et surtout les librairies les plus pointues, les plus intellectuelles. C'est bien parce que c'est libre et qu'on a le droit et le devoir de se prononcer sur les œuvres d'art et les œuvres de l'esprit.
C'est moi. C'est Daniel Pénac, ici présent. Fidèle, bien entendu, au masque et à la plume. Ben oui, c'est une espèce de rendez-vous, quoi. C'est un rendez-vous hebdomadaire. J'en rate quelques-uns, c'est le propre des rendez-vous. Un rendez-vous, c'est fait pour être raté de temps en temps. Et alors, ça me rappelle un rendez-vous hebdomadaire que l'écrivain Maurice Baring, un de la bande à Chesterton, avait avec une je ne sais quelle dame qui tenait salon littéraire à Londres. Il y avait des soirées épatantes, d'autres où ils se barbaient, et dans l'une d'entre elles, s'ennuyait à mourir chez cette verdurin britannique, Maurice Baring prend un chandelier traverse le salon et fout le feu au rideau. Et les rideaux crament instantanément, tout le monde lui saute dessus, on lui arrache le chandelier des mains. Et tout le monde lui dit, enfin Maurice, qu'est-ce qui vous a pris? Et Baring a répondu, j'ai mis le feu au rideau de Madame Verdurin pour qu'on ne dise jamais c'est le soir où nous nous sommes tant ennuyés chez Madame Verdurin, mais c'est le soir où Baring a mis le feu au rideau de Madame Verdurin. Et alors très fréquemment, dans le masque et la plume, quand l'émission commence un peu à ronronner, il y a quelqu'un qui fout le feu au rideau. Évidemment, on attend ça, on attend le moment où quelqu'un foutra le feu au rideau. Assez souvent, en littérature, le préposé à l'incendie, quand ça ronronne un peu trop, c'est Aisine, qui fait semblant de pas avoir lu un livre, et qui joue le... Et voilà, et il met le feu au rideau. Et assez fréquemment, on a comme ça un incendie de rideau qui fait que cette émission dure comme ça depuis 50 ans et qui est tant de fidèles, dans le même temps qu'elle va nous informer sur ce que nous allons voir, lire, entendre. On attend vaguement que Maurice Baring foute le feu au rideau, et ça marche. Il met très souvent le feu au rideau.
Il est 21h27, je rappelle à nos auditeurs qui sont en direct sur France Inter pour une émission spéciale jusqu'à 22h consacrée aux 50 ans de notre émission, de votre émission. Le masque et la plume, après le théâtre, après les livres, le cinéma, c'est à la fin. Simplement la fin des années 50 que le cinéma fait une entrée fracassante au Masque et la Plume pour y prendre une place prépondérante, et c'est avec évidemment Georges Charansol et Jean-Louis Borry que l'émission entre dans la légende, extrait que forcément vous attendez en septembre 76 d'un échange entre les deux critiques vedettes à propos de l'Empire des Sens de Shima.
Tandis que l'Empire des Sens de Monsieur Nagisa Oshima, que nous avons vu à Cannes, alors que Charansol n'était pas à Cannes, alors je lui ai donné la priorité, il a vu ça à Paris comme tout le monde, il est sorti bouleversé.
C'est un film, pas bouleversé.
Il en faut davantage.
Il en faut beaucoup pour me bouleverser. Enfin, c'est tout de même un film...
Chapeau, hein. Vous aviez jamais vu ça quand même.
Jamais vu ça, non, on ne peut pas dire ça. Talnet tout à l'heure a fait des distinctions très justes. À mon avis, c'est pas un film... sexuel, c'est vraiment un film érotique. Ça se passe beaucoup plus, tout de même, dans la tête de ces deux personnages.
Il met là la tête.
Oui.
Ah non, mais vraiment, ils sont impossibles.
Non, mais est-ce que c'est beau?
Ils comprennent rien à rien.
Charles, que vous trouvez ça beau?
Non, c'est un film, moi, qui me touche profondément pour deux raisons. La première, c'est que c'est peut-être le premier film véritablement érotique au sens où je comprends ce mot, c'est-à-dire où les sens correspondent à ce qu'on souhaite dans une autre partie de son individu que celle dont parle Jean-Louis Borry. Et deuxièmement, il est évident que cette reconstitution des estampes érotiques japonaises dont tout le monde sait que François-Régis Bastide possède une collection admirable...
Il m'a fait le coup plusieurs fois.
Cette reconstitution... des plus merveilleuses estampes japonaises du XVIIIe siècle est un enchantement pour les yeux. Or, pour moi, dans un film, d'abord, ce qui compte, c'est la plastique. Ceci dit, le sujet du film, c'est quand l'érotisme touche à la folie et à la mort. Et quelqu'un qui traite un tel sujet et qui ne se casse pas la gueule, eh bien, chapeau.
Bon, c'est l'opinion de Charansol, l'opinion à toi, Jean-Louis.
Non, c'est un film, à
je
mon avis...
Je dirais sûrement pas quoi que tu dises, parce que je m'en
rappelle. C'est un film à la fois terrible, ouais. Terrible. Et ouais. Et magnifique et sublime.
Oui.
Et moi, je refuse, la distinction entre sexuel, érotique et porno, je voudrais qu'on y revienne un jour sérieusement, la refuse totalement.
Moi aussi.
Pour moi, c'est bien du porno, et du porno, c'est tout. Oui. C'est ce que j'appellerais, je suis désolé de...
Pourquoi c'est pareil?
Ah oui, je m'expliquerai un jour profondément là-dessus.
Ah
si,
bon,
si.
Alors ça...
Le porno, tu comprends, c'est une question de clientèle. Le porno, lorsque c'est pour les travailleurs immigrés, ou pour si, mais c'est vrai, pour les miséreux sexuels de la rue Saint-Denis, c'est laid, c'est bas, c'est con, c'est bien assez bon pour ces gens-là. Quand il s'agit, des cadres de moyens et supérieurs qui descendent dans les Champs-Élysées, comme on va voir au Marigot le samedi soir, alors on baisse sur du Mozart, dans des lumières à Georges de la Tour.
Mais ça n'a rien à voir avec le film dont tu parles.
Quand on fait,
Ça n'a aucun rapport avec ce film.
Quand on fait des fellations sur une cantate de Bach, c'est érotique. Bon. Mais la paire de fesses est la même.
Il n'y a pas de cantate de Bach.
Si, attends, excuse-moi. La paire de fesses reste la même et ce que Georges Charançon appelle la tête est exactement la même. Bon. Par conséquent, ça, les distinctions entre sexuels, il y a du porno, un point, et c'est tout. Bon. Ceci pour dire que là, vous avez un porno...
Complètement, enfin bon.
Vous avez là un porno sublime. C'est-à-dire que, en effet, dans une civilisation qui est très différente de la nôtre, et je comprends les réticences de Jean-Louis, c'est que dans un monde qui n'a pas du tout la même conception que nous de la pudeur, premièrement, étant donné qu'il y a beaucoup de regards qui suivent ce couple, qui en effet connaît l'espèce d'escalade vers l'absolu. Bon. Dans une qui n'a pas du tout la même conception même de l'acte physique, dans la mesure où c'est constamment lié à un cérémonial, où la musique est là. C'est la civilisation de la geisha, où il y a tout un rituel de la caresse physique qui fait partie d'un ensemble où la sensualité devient artistique. Bon, ça c'est le Japon. C'est pas nous, bien sûr. C'est pas Romorantin, c'est évident. Alors il y a autre chose.
C'est pas la rue Saint-Denis non plus.
Mais non, mais ça n'a rien à voir avec la rue Saint-Denis. Alors il y a donc tout ça, la geisha. Et en même temps, c'est la civilisation où existe tout de même ce phénomène curieux pour nous, Européens, le kamikaze et le harakiri. Par conséquent, où il y a, presque normalement, au bout d'une certaine, si vous voulez, exaltation, le ballet bizarre, étrange, et pour nous, assez monstrueux, européen, avec notre petite morale chrétienne bien confortable, il y a le ballet de Eros et Thanatos, de la mort et de l'amour physique, sexuel, qui est effrayant et qui est symbolisé par la mutilation du mec.
Voilà, si vous êtes gentil, vous aurez encore un Boris tout à l'heure. C'était donc en 76. Le 13 novembre 2005, qu'est-ce qu'on pense du masque et la plume chez les professionnels du cinéma? Avant de recevoir nos invités, Daniel Eman a posé la question au producteur Marine Karmitz, à Christophe Baratier, le réalisateur décoriste, et au chabrolissime Claude Chabrol.
Bonsoir, je suis Marine Karmitz. Mon premier contact avec le masque et la plume, c'était Jean-Louis Borry, et que j'ai encore en tête cet enthousiasme-là. C'est vrai que Jean-Louis, qui a été par ailleurs mon professeur, quand j'ai fait mes études à l'IDEC, quand je préparais l'IDEC, et qui m'a donc appris aussi à aimer le cinéma, a continué pour moi à être le symbole du masque et la plume, car il faisait venir des spectateurs. C'est moins vrai maintenant, c'est plus difficile maintenant, les critiques sont moins écoutées, c'est dommage, c'est un peu de leur faute. Parce que ils ont aussi considéré que tout était dans tout et qu'ils n'ont plus justement émis un avis critique spécifique et rassurant pour les spectateurs. Mais Jean-Louis faisait déplacer les foules. Et une bonne critique au masque et la plume de Jean-Louis, c'était 20 000 spectateurs assurés, ce qui était bien pour un film d'auteur. J'aime beaucoup le masque et la plume parce que c'est une émission qui n'est possible qu'à la radio. On a essayé de reprendre le masque et la plume à la télévision. Ça n'a jamais été possible puisque là, toute la profession a mis son veto, trouvant que la télévision qui vivait en partie du cinéma ne pouvait pas dire du mal ou critiquer le cinéma. Par contre, la radio, qui n'a absolument pas besoin du cinéma pour vivre, peut dire ce qu'elle veut du cinéma. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que ces confrontations entre critiques, ces confrontations de points de vue, c'est la nature même de ce qu'est pour moi le cinéma. C'est-à-dire la possibilité de débattre après un film, de discuter d'un film. Un film, c'est un lieu collectif où, à l'issue d'une séance de projection, les gens doivent pouvoir s'engueuler, se disputer, dire la chose et son contraire, aimer et détester. Et c'est la vie, et c'est la vie du film et la vie du cinéma qui passe de cette façon.
Je suis Christophe Baratier. Le masque et la plume, je l'écoute de façon régulière depuis, je dirais, 25 ans. Ça correspond à un moment de la semaine qui est un moment agréable, qui est un moment qui est une espèce de dimanche soir, un peu lassif, où on a le choix soit se préparer au film de TF1, ce que je ne fais plus depuis très très longtemps, soit se dire, en faisant un peu la cuisine, parfois pour quelques amis, ou même pour une bonne soupe qui nous prépare bien à la semaine, je vais écouter le masque et la plume. Je préfère dire le masque et la plume, parce que le masque, c'est un côté branché, déjà, qui je trouve un petit peu agaçant. Alors justement, comme toute personne, je crois, qui consomme la culture, qui voit des films, qui aime le théâtre, j'aime d'abord être au courant, c'est un bon moyen, c'est un moyen vivant. Je crois que le pire, pour moi, c'est les éclats de rire que vous avez. Ça, je me souviens, j'étais avec ma fille dans la voiture, je la raccompagnais, et tout à coup, on me demande, je crois, Alain Rioux, comment vous avez trouvé ce film? Et il dit, sympa. et éclat de rire général. Alors là, on se dit, et ma fille me dit, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il rit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sympa, et tout le monde éclate de rire. Moi, j'ai fait le tour du monde de la presse avec les choristes, et je crois quand même qu'il y a une espèce de portrait robot. Bizarrement, je vais dire du critique de film français tel qu'on peut le retrouver au Masque et la Plume, qui a souvent comme ça une espèce d'humour un petit peu alacre, un petit peu rive gauche, dans lequel on ricane. En même temps, c'est formidable parce qu'on se fait, je trouve, moi, une vraie opinion. Et sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait souvent des œuvres. Ça arrive, hein, il y en a assez souvent. Mais je pense que tout ce qui compte, à peu près dans l'expression d'une recherche cinématographique ou d'une recherche, en tout cas, de théâtrale, se retrouve au Masque.
Bonsoir, c'est Claude Chabrol. Déjà, le Masque et la Plume. On a l'impression que la plume sert à gratter le masque. Ce qu'il y a de beau dans cette émission, c'est que tout le monde s'engueule. Et quand les gens s'engueulent, la vérité n'est pas loin. Je me souviens, dans le temps, il y avait des prises de bec absolument hallucinantes entre Charansol et Boris pour le cinéma. C'était absolument divin. Les prises de bec politiques à l'heure actuelle sont des plaisanteries à côté de tout ça. Le Masque et la Plume, c'est une espèce de vie de l'esprit, comme ça, d'existence de l'art par le brassage des idées. Tout ça est très sain. Je suppose qu'il m'est arrivé souvent d'être un petit peu éreinté, soit par l'un, soit par l'autre. Charansol, surtout, qui n'aimait pas beaucoup mes films. Mais Boris les défendait. Pour moi, la critique de mes films passait derrière le plaisir d'entendre l'émission. Non, mais c'est très très sérieux ce que je dis. En général, les critiques, on a envie de les étrangler quand ils sont idiots, quand ils comprennent rien ce que vous avez fait, tout ça. Mais dans le cas du Masque et la Plume, comme il y a plusieurs opinions différentes, finalement, il y a toujours dans le tas, il y en a toujours un qui a compris. Ce qui est satisfaisant. Et s'il n'y en a pas un qui a compris, c'est vraiment qu'il n'y a rien à comprendre. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Ça doit être la 100e année. Mais de toute façon, il en faut 100 autres.
Merci Claude Chabrol. Non, c'est pas la 100e, mais on y va tranquillement et sagement. Pour cette dernière partie de l'émission, je suis encore heureux d'accueillir aux côtés de Daniel Eman, de Alain Rioux alias Riri et de Michel Simon, je te ferai pas ce soir, si je te le fais, Michael Simon, heureux d'accueillir Jean-Paul Rapneau et Pierre Jolivet. Jean-Paul Rapneau, à qui l'on doit, entre autres, La Vie de Château, Le Sauvage, Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le Toit et Bon Voyage, film plutôt bien reçu au Masque et la Plume, on en dira un mot, et Pierre Jolivet, le cinéaste de Fred, ma petite entreprise, Zimenko, plébiscité l'été dernier par les critiques du Masque et la Plume, et selon nous, tout à fait négligé par le public. Alors, il y a quelques années, j'avais fait venir à cette tribune le cinéaste Patrice Lecomte, lors d'un débat houleux, où il avait proclamé que certains critiques sont des assassins. Il se donne le mot pour tuer le cinéma français populaire. Quant à Bertrand Tavernier, parlant hier du Masque et la Plume dans le Monde, il dénonce notre arrogante connerie et notre ignorance affichée. Alors, assassin, ignorant, les critiques, forcément, je vous pose la question maintenant avec nos amis critiques, Jean-Paul Rapneau et Pierre Jolivet. Jean-Paul.
Oui, alors dans le même monde dont vous parlez, j'ai lu que les auteurs et les cinéastes invités l'avait été parce qu'il avait été étrié au Masque et la Plume. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir été étrié, en tout cas par les critiques.
Non, c'est ce que je disais. Vous avez été plutôt un miraculé du Masque et la Plume. On voulait quand même, pour finir l'émission avec un petit peu plus de douceur, faire venir des cinéastes qui ont été bien reçus à cette tribune.
Oui, alors je vous remercie. Bien que.
Quel souvenir vous en avez du
Masque?
Oui,
c'est ça. C'est-à-dire que avec moi, ça a mal commencé. Enfin. Alors, c'est une histoire très ancienne, donc
elle est restée dans votre mémoire, cher Jean-Claude.
Oui, elle m'a poursuivi longtemps, ce qui fait que j'ai eu longtemps une méfiance vis-à-vis de vous. Et voilà. Donc, mon premier film, La Vie de Château, il y a très longtemps, le film obtient le prix du Louis de Luc. Alors, on me dit, vous savez, il y a un homme à qui vous devez beaucoup, parce qu'il s'est vraiment battu à l'intérieur du jury pour que vous ayez le prix, c'est Georges Charansol. Ah, bon, bien. Alors, d'ailleurs, je lui dis, quand je le vois, à ce moment-là, Et puis, quelques années passent, et mon second film, Les Mariés de l'an 2, sort. On m'invite au Masque et la Plume. Alors, je dis, ah bon, mais on invite les cinéastes. Oui, 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 vous allez voir. Mais attendez, j'hésite. Mais qui y aura-t-il? Qui sont les critiques? Ben, il y aura Charan Sol. Ah, Charan Sol. Alors, bon, je viens, bien sûr. Bon, alors, je viens, je m'installe dans le public. Et Charan Sol mitraille le film, le met en pièce sous mes yeux. Je suis dans une embuscade, épouvantable. Et puis, alors, les critiques s'en vont, et Bastide m'invite à prendre leur place. Et dans l'indignation, je fais une sortie ridicule. Maintenant, j'ai le rouge au front quand j'y pense, mais presque hurlant. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà. Donc, pendant plusieurs années, la honte me s'est effacée maintenant. Mais...
La preuve, c'est que vous êtes là.
Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait ça, une dispute, d'ailleurs, toujours la même, entre Bory qui aimait le film et Charan Sol qui le détestait. Alors voilà.
Pierre Jolivet, c'est vrai que vous, alors là, c'est tout récent, c'était l'été dernier, Zimenko. C'est rare de voir la tribune du Masque presque intégralement en faveur de ce film.
Pierre, vous l'aviez écouté, l'émission?
Oui, j'avais écouté l'émission, pas tout à fait unanime, parce qu'il y avait un de vos collègues qui était beaucoup plus réticent.
Ah, tu vois, Jérôme.
C'était qui le collègue?
Je me souviens plus son nom, parce que je nettoie tout ce qui peut être négatif. La mémoire nettoie, en tout cas en ce qui me concerne, je garde plutôt les bons souvenirs. Mais en écoutant l'émission que je connais depuis longtemps, puisque j'ai été animateur à France Inter aussi, que j'ai commencé là, tout petit, dans cette grande maison ici, avec mon frère, c'est vrai que si, quand on faisait l'Orient Coin, on a commencé, on faisait 3 minutes chaque dimanche matin à l'Orient Coin. Donc évidemment, France Inter, c'était notre radio, et le Masque et la Plume était une sorte de phare comme ça qui éclairait toute la culture de cette chaîne. Et je crois que en tant que cinéaste, en tout cas, sans dire du bien du Masque et la Plume, puisque vous avez dit du bien de mon film et même de plusieurs de mes films, mais je crois que on reçoit une mauvaise critique du Masque et la Plume, on la reçoit pas comme ailleurs, parce que on sait, comme disait Chabrol, que quelqu'un va nous défendre. Je crois que c'est beaucoup moins douloureux pour nous que de lire un papier sec, net, pourfendeur, assassin et total, pour lequel on ne pourra jamais demander un droit de réponse dans un journal. On se couvrerait de ridicule. Donc, une critique seule dans un journal, c'est terrible. Alors que le Masque et la Plume, c'est une sorte d'empoignade où on se dit toujours, il y en a un qui va me sauver, ou même quand on est très, très encensé, il y en a un qui vous remet une bonne tape dans la nuque avant de partir, pour vous rappeler que votre film n'est quand même pas parfait. Donc, je crois que c'est cette ambiance-là qui est très...
C'est-à-dire, Pierre Jolivet, vous êtes aussi le vice-président de l'ARP, l'association réalisateurs et producteurs. Et c'est en ce titre-là que Patrice Lecomte de l'ARP s'en était pris aux critiques. Et venu ici, il s'était quand même tourné vers les critiques du cinéma du Masque et la Plume en disant qu'ils avaient cette vertu aussi qui pouvait tourner au vice d'être des assassins.
Oui, alors il n'était pas du tout mandaté par notre association pour aller dur de mal des critiques. C'était uniquement son point de vue, et ça a d'ailleurs déclenché une polémique au cœur des réalisateurs dans cette association dont Jean-Paul est membre également. Et moi, j'ai toujours eu le point de vue qui était que j'ai produit deux premiers films très compliqués, qui était le premier film de Luc Besson que j'avais écrit, qui s'appelait Le Dernier Combat, et mon premier film que j'ai fait avec Pierre Arditi, qui m'avait appelé tout le tournage cette année 4 briques, parce que je l'avais pu le payer 40 000 francs, donc 4 briques. Donc il m'appelait des canbriques tout le temps. Et donc, on se fera raconter ça avec Pierre. Et ce film est sorti un 15 août dans 5 salles. C'est un petit film d'auteur, produit moi-même. Enfin, le truc qu'on fait avec la folie quand on a 28 ans. Et je me suis retrouvé avec une page dans Le Monde le jour où c'est sorti. Et une page, un très bon article dans le Nouvel Obs. Et donc, je crois que la critique, c'est ça aussi. C'est un film qui passe totalement à côté du public, parce que le public n'a pas le temps, parce qu'il n'a pas la vista de ça, parce que c'est pas son métier. Et tout d'un coup, vous pouvez faire un deuxième film. Pourquoi? Grâce aux qualités du film, sans doute, mais parce qu'il y a des gens qui ont vu la qualité du film. Ni les producteurs qui étaient en vacances au mois d'août. C'est parce qu'il y a eu des critiques qui ont dit beaucoup de bien de votre film au moment où vous êtes sorti dans l'indifférence générale. Et Le Dernier Combat, qui est un film qui n'a pas bien marché en salle, un film en noir et blanc d'anticipation, a eu le prix de la presse internationale au festival d'Avoriaz. Et donc, ces deux films ont fait le tour du monde, ont eu des prix dans le monde entier, ont été nommés au César grâce aux critiques. Alors, je pense que on peut pas à la fois avoir besoin des critiques politique quand on fait une œuvre particulière au départ, parce qu'on a envie de dire quelque chose qui nous est particulier et ça n'a pas d'écho dans le grand public. Tout d'un coup, la critique l'attrape. Luc Besson a refait des films derrière, moi aussi, et donc on peut pas après dire je veux plus de la critique. Alors ça voudrait dire qu'on en veut bien au début quand ça nous rend service, et puis à peu près quand on a grandi, évidemment, on prête le flanc beaucoup plus aux critiques, mais c'est normal. Mais on peut pas rejeter tout ce qui vous a servi au départ. Ça fait partie du jeu, c'est dans le jeu, faut s'amuser avec.
Voilà. Daniel ou Jean-Paul?
Dans une chose que disait Pierre, c'est qu'effectivement la parole n'est pas l'écrit, comme on le sait, et un article lu avec cette la force que donne la chose imprimée, quand on lit un mauvais papier, ça semble brusquement, enfin pendant les premiers moments, comme la vérité, comme le journal officiel, comme c'est écrit dans le journal, c'est ça, c'est que c'est vrai. Et Le Masque et la Plume n'a pas cette n'inflige pas ces blessures là, quoi.
Donc vous ne pensez pas, avec pour en finir avec cette histoire de la polémique lancée par le Comte, que la critique du Masque pourrait tuer le cinéma populaire français, c'était l'expression utilisée.
Mais il parlait uniquement du Masque et la Plume.
Non, des critiques en général, mais disons qu'il avait, il était venu le dire ici à ce micro.
Ah, Patrice, je l'aime beaucoup, c'est un ami, donc je sais qu'il a été un peu indigné par certaines choses qui lui étaient arrivées à lui. Et l'indignation fait partie de notre métier, mais elle peut se calmer et on l'oublie. Moi, j'oublie les blessures que j'ai reçues.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance de la profession, je parle ni de Jean-Paul Rapneau, ni de Pierre Jolivet, mais de responsabiliser les critiques au-delà de leur opinion. C'est-à-dire, vous avez une responsabilité, maintenant ça coûte tellement cher de faire des films, c'est tellement difficile de trouver un financement, vous ne pouvez pas, comme ça, avec désinvolture, avec facilité, du haut de votre pouvoir exorbitant, critiquer sévèrement un film parce que vous ne vous rendez pas compte de votre responsabilité, industrielle. Alors, est-ce que vous éprouvez ce genre de sentiment et est-ce que vous en avez des échos ?
Pierre Jolivet. Non, j'ai entendu la presse ou lu la presse ou vous-même assassiner des films terribles qui ont fait des carrières absolument formidables. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de rapport, et hélas pour vous, je dirais, entre le discours que vous pouvez tenir et le succès possible d'un film. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que le fossé se creuse, c'est-à-dire qu'on se disait, oui, Jean-Louis Borry, c'était pas seulement à cause de la personnalité de Jean-Louis Borry qui était forte. Il y a des personnalités autour de cette table très fortes. C'est pas le problème de la personnalité du critique. C'est le monde culturel en général qui a muté. Et donc, évidemment, l'écho de la bonne critique ou de la mauvaise critique est beaucoup moins fort qu'avant. Et hélas, la bonne critique sur un film intéressant est plus destructeur que une mauvaise critique sur un film qui va se passer de la critique complètement et qui ira directement vers les gens. Et pour sortir du film pour sortir de ce studio, j'ai tourné pendant 9 semaines le film que vous avez aimé cet été, qui s'appelait Zimenko, qui s'appelle toujours Zimenko, et qui fait le tour du monde, qui est vendu dans plein de pays très inattendus, comme l'Inde ou l'Angleterre. J'ai tourné 9 semaines en banlieue, à Saint-Denis, à La Courneuve. J'en parle aujourd'hui parce que Le Masque et la Plume est quand même dans la réalité, dans l'actualité. Et j'ai été absolument sidéré du peu de violence pendant le tournage, aucune. Je voulais pas de flics, je voulais pas de barrières, je voulais rien. Voilà, donc des fois je me retournais, j'avais 15 mômes derrière le combo qui regardaient la scène avec moi. Puis au bout d'une semaine, ils avaient compris qu'il y avait un film qui se tournait dans le coin, on avait plus du tout personne derrière le combo. Il n'y en a pas un avec lequel j'ai eu de la violence. À chaque fois, je disais, est-ce que tu peux nous filer un coup de main? Je suis emmerdé. Dès qu'on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous être utile et nous aider, on n'a pas eu plus de problème. On a eu quand même un gros problème. C'est que je ne sais pas quelle langue ils parlent. Ils n'écoutent pas Le Masque et la Plume. Culturellement, ils sont nés, cette génération-là, je vous rassure, quand vous faites des mauvaises critiques sur un film, ils vous écoutent pas, vous êtes peinards. Je crois que c'est cette connexion-là qui me fait peur, c'est-à-dire ce fossé qui s'agrandit chaque jour entre ceux qui sont nés avec les télévisions privées et qui ne regardent que les télévisions privées, pas les télévisions du service public, qui n'écoutent pas les radios du service public pour la plupart. Donc un fossé énorme qui se crée entre les élites intellectuelles ou culturelles et les gens de la rue. C'est ça qui me fait peur, c'est que je ne sais plus comment aller de l'un à l'autre et mon cinéma est au milieu.
Michel Simon et Alain Rioux, un mot?
Oui, non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, à défendre la critique, puisqu'elle n'est pas attaquée, c'est agréable, pour une fois. Mais j'ai écouté enfin, j'étais là pour les deux autres émissions, c'est vrai qu'il y a parfois une violence des créateurs contre les critiques. Et moi, ce que je voudrais dire à Pierre Jolibet, pour jeter une petite pierre dans le jardin des critiques, c'est que c'est vrai que la critique a tendance à beaucoup défendre souvent les premiers films, les jeunes auteurs, ce qui est formidable, parce qu'ils ont besoin d'être aidés. Et puis à un certain moment, il y a un peu un syndrome de Mère Teresa, de Mère Poule, c'est-à-dire ils ont protégé des gens, et ces gens leur échappent, ils ont de grands succès, ils n'ont plus besoin peut-être de la critique autant qu'ils l'avaient avant, et c'est à ce moment-là qu'il y a un retour de bâton. Ça existe. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on voit l'indignation des créateurs face aux critiques, quand on laisse les créateurs s'exprimer sur les films, ensemble.
Ils sont beaucoup plus durs que vous.
C'est terrible. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on assassine aussi bien Woody Allen que Wim Wenders que Roman Polanski. Ils sont passés à la moulinette. Et moi, je crois que si on laissait aux créateurs la critique pendant 3 mois, tous les créateurs réunis feraient un syndicat pour réclamer le retour des critiques.
Alain Rioux.
Oui, moi, il me semble que, bon, les avis qu'on a sur un film est une chose. Mais il y a également le fait simplement d'en parler et d'en parler avec vivacité. Et à ce titre, j'ai été très très frappé par l'engueulade là tout à l'heure de Bory et Charansol, qui est c'est vraiment un étendard du masque ça, parce que vous avez noté qu'ils étaient du même avis. Ils arrivent à s'engueuler, et premièrement, ils étaient tous les deux du même avis, et deuxièmement, pour dire du bien du film. Donc, je commence à comprendre un petit peu le succès du Masque et la Plume, des bons Masques et la Plume.
Ah bah, il est temps.
C'est une émission qui a une considérable vitalité, et c'est exactement la qualité qu'ont également les bons films.
Allez, un petit plaisir encore, c'est La Tirade, qu'on n'oublie pas, de Jean-Louis Borry en 76 à propos d'un film qu'on a oublié, Les œufs brouillés, de Joël Santoni.
On sait ce qu'est le plus vieux métier du monde, et on cherche désespérément le personnage qui peut le représenter. Naturellement, on ne le trouve pas, bon, bien sûr. Alors, c'est plein de petits détails absolument succulents, comme le début est un mourir de rire. C'est le matin de la Saint-Sylvestre. Alors, on pique 3 éboués, c'est-à-dire un malheureux malien, un arabe, un morvandio, c'est un doux, j'arrive pour le morvan, je suis le morvan. Bon. Et alors qu'ils sont amenés partager le petit déjeuner du président de la République, c'est pour vous donner le ton. Alors, c'est table somptueuse, fleurs, argenterie, vaisselle naturellement signée, et on leur offre sur des coquetiers absolument du 18e siècle, un œuf à la coque, bon, de la marmelade, d'orange, et le président charmant, délicieux, disant, vous en prie, faites comme chez vous. Tout le film, c'est absolument mourir de rire. C'est mourir de rire parce que, hélas, c'est d'une vérité à crier. Oh, si, déjeuner chez Peter Ouchnok, c'est d'une démagogie imbécile.
Il est probable que ça s'est passé comme ça.
Mais non, oui. Moi, je trouve que c'est sans doute au-dessous de la vérité.
Écoute, quels que soient les sentiments politiques que vous avez chacun et que je respecte naturellement...
Mais j'adore les œufs brouillés.
Moi aussi.
Et j'adore Lonsdale.
Mais vous ne...
Et j'adore Briani.
Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que le président de la République ait dit ce jour-là aux éboueurs, faites comme
ça. Ah, je suis persuadé que si.
Mais non.
Il a dû le dire en malien et en arabe.
Cet extrait, comme tous les autres que vous avez écoutés depuis le début de cette émission spéciale, eh ben vous le retrouvez dans le volume publié aux Arènes qui contient 2 CD d'archives de cette émission et le récit que fait Daniel Garcia des aventures du Masque et la Plume depuis 50 ans. Daniel, un petit mot pour conclure avec vous cette émission. Qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser d'abord à l'histoire du Masque et la Plume?
D'abord, j'ai commencé pour mon premier livre, était une biographie de Jean-Louis Borry.
Et si je me suis intéressé à cette histoire du masque et la plume, bah, c'est parce qu'on me l'a, commandé, vous notamment, et les éditions Les Arènes. Et je crois qu'on va,
qui voulait commander.
Enfin, non, mais vous étiez, disons, vous avez donné votre accord, en disant si c'est Daniel Garcia, je suis ok. Je voulais juste faire une, je ne veux pas polémiquer, mais, Michel Pollack a dit tout à l'heure que je n'avais pas interrogé tous les producteurs, c'est faux. Simplement, Pierre Bouteiller ne m'a pas répondu. Voilà. Je crois qu'on aura l'occasion de reparler du livre. Il y a une chose qui me tenait à cœur aujourd'hui que je voulais dire. Dans les Bobineaux que vous avez passé tout à l'heure, je crois que c'est un spectateur qui parle des enfants du masque et la plume. Je suis un enfant du masque et la plume. Je porte un nom d'origine étrangère. Je suis né dans une famille pauvre où il n'y avait ni livres, ni journaux, ni rien, etc. Mon ouverture au monde, elle s'est faite par cette émission. Je ne suis pas d'accord avec Pierre Jolivet quand il dit aujourd'hui les jeunes n'écoutent pas. On ne l'écoutait pas plus. J'ai 45 ans, du temps de ma génération, dans le milieu rural d'où je venais, personne n'écoutait cette émission. J'étais un petit peu le seul. J'avais l'impression de faire la résistance. Cette émission m'a ouverte au monde. Je n'ai pas pu faire d'études, mais cette émission m'a permis de rentrer dans un milieu intellectuel, d'être journaliste, de participer à l'édition. Et on ne m'a jamais fait, moi, le reproche. Quand j'étais gosse, on me disait, toi, t'es un espingouin. Et on ne m'a jamais fait le reproche ensuite d'être un jeune issu d'immigration ou d'être un Français issu d'immigration, parce que d'autres sont arrivés à cette époque qui ont pris tout le racisme des Français. Et je voudrais dire, je suis sûr qu'aujourd'hui, ce soir, il y a des, dans les cités, au contraire, il y en a qui nous écoutent, j'en suis certain. Il y en a dans cette salle, je le sais, vous le connaissez, il y en a au moins, vous le connaissez, Jérôme. Ils nous écoutent. Pour eux aussi, cette émission, c'est une ouverture au monde. Et voilà, je crois que c'est, si le masque a aussi une utilité, c'est celle-ci. En tout cas, pour moi, je lui dis absolument tout. Ça a été mon ouverture à la culture.
Ce matin, il y avait sur le site du Masque et la Plume plusieurs centaines de mails qui sont arrivés pour souhaiter un bon anniversaire au masque. Et plus de la moitié, c'était des tout jeunes auditeurs de entre 15 et 25 ans qui nous disent que souvent, ils ont leur seconde école ou leur première école. Ça a été pour apprendre le cinéma, le théâtre, les livres et aussi le monde. Ça a été le Masque et la Plume. Daniel Garcia, merci en tout cas. Merci à tous pour cette émission tout à fait spéciale qui a commencé il y a maintenant presque 2 heures pour le 50e. Donc anniversaire du Masque et la Plume, émission, ben oui, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration très précieuse de Lysiane Selam, une équipe ce soir technique formidable, avec Yves Baudry, Catherine Dereté, Stéphane Desmond, Philippe Mercher, Jean-Michel Breton, Joël Mazot, et à la réalisation ou à la baguette, comme vous voulez, Jean-Charles Dieval. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 24 novembre à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour 2 émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. La semaine prochaine, on parle cinéma et on se quitte avec un autre standard de 1955, année de naissance du Masque et la Plume. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling this romance. Oh, what the scene. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Un petit peu de pub.